Et c'est Mathieu Béliard qui s'installe pour le 7-9. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien. Ça va Sébastien ?
En pleine forme.
En pleine forme, Sébastien Krebs et son équipe qui vous réveille dès 5h le matin. Merci Sébastien et bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous. Mercredi 2 septembre 2020 sur Europe 1. Ensemble, on écoute le monde changer. Êtes-vous toujours Charlie ? Émotions, sentiments mélangés aujourd'hui. C'est un jour pour se souvenir, mais aussi pour s'interroger, évidemment, avec l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015. Aujourd'hui, Charlie Hebdo, Montrouge, l'hypercacher. Trois jours qui ont changé la France, mais trois terroristes déjà morts. Alors, c'est quoi ce procès ? Rappelez-vous de ce que disait François Molins, le procureur de la République de Paris. À l'époque, il était mon invité lundi.
La justice, elle a un devoir de vérité et de réparation à l'égard des victimes.
La vérité, la réparation, 14 accusés jugés pour avoir aidé les frères Kouachi et Amédi Coulibaly. Un procès filmé pour l'histoire. C'est bien un procès hors norme qui démarre et nous allons vous le raconter. À 7h40, je vous propose un document audio exceptionnel pour mieux comprendre ce qui sera jugé. Le film de ces trois jours qui ont changé la France. C'est à la une ce matin, bien sûr, sur Europe 1. Au programme aujourd'hui, 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher. La rentrée politique, les débats sur l'insécurité, mais aussi ces questions existentielles que se pose la droite française. À 7h50, l'édito politique de Nicolas Bétou avec Christian Estrosi qui appelle sa famille à se ranger derrière Emmanuel Macron. On va beaucoup en parler ce matin. Très bon réveil à toutes et à tous. Voilà quelques éléments du programme ce matin. Il est 6h59.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Laurent Cabrol avec nous pour la météo. Bonjour Laurent.
Bonjour Mathieu. Et dites-moi, les nuages sont prétentieux en ce moment-là. Aujourd'hui, surtout sur certaines régions, ils espèrent masquer le soleil, comme si on pouvait masquer le soleil. Sur le nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Auvergne, Rhône-Alpes, Côte d'Azur, Corse et Berry, ils y parviendront partiellement. Les nuages vont, libérer quelques gouttes de pluie dans ces contrées, mais vraiment très très légères. Le soleil sera solitaire, il sera là, bel et bien présent en Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Sud-Ouest, Languedoc, Roussillon, Provence et régions parisiennes. Et il sera voilé sur la Bretagne et la Normandie. Les températures aujourd'hui, ce matin, comme hier, elles sont fraîches. Elles sont parfois froides, entre 3 et 14 degrés de moyenne. La température cet après-midi, vous verrez tout à l'heure, je vous en dirai deux mots de plus. 21 à 27 degrés, dont 23 à Paris, 25 à Lyon et 26 à Toulouse.
Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Installez-vous avec Europe Matin, on écoute le monde changer. Il est 7h.
C'est comme si vous aviez une douleur et qu'on aura appuyé dessus. On sait que ça va être un moment difficile, mais ça fait partie des choses qu'il faut absolument pour pouvoir continuer à aller de l'avant.
Et il sera l'une des 200 parties civiles au procès des attentats de janvier 2015 qui s'ouvre ce matin. Témoignage de Michel Catalano, l'imprimeur de Seine-et-Marne qui s'est retrouvé otage des frères Kouachi. Ce matin, Charlie Hebdo republie les caricatures de Mahomet avec ce titre « Tout ça pour ça ». Nous vous emmènerons dans le quartier qui abrite les locaux du journal en toute discrétion, bien sûr. Le cimentier Lafarge accusé de polluer la Seine. Europe 1 vous révélait l'information hier. Ce matin, nous vous dévoilons de nouvelles accusations sur des rejet de ciment sur un autre site parisien. Le burn-out les guette, les moins de 40 ans, de plus en plus absents au travail, étude dévoilée ce matin. Et puis, quels sont les prénoms qui auront le plus la cote en 2021 ?
Aurore, il y aurait Aube, un prénom comme Nour, c'est la lumière. Chez les garçons, il y a des Zéphyrs, il y a Orion, il y a Sirius.
Apparemment, la nature et l'espace inspirent les parents.
Juste après ce journal, le plan de relance sera dévoilé demain. Question saugrenue, 100 milliards, est-ce que ça suffit ? À 7h10, l'éclairage éco de Nicolas Barré. Le regard international de Vincent Hervouet, c'est à 7h15 avec la visite surprise d'Emmanuel Macron à Bagdad. L'édito sport de Virginie Fulpin à 7h20. Et notre rendez-vous d'histoire, 7h25, c'est avec Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nous allons tous nous souvenir. Plus de deux mois d'audience, 49 journées devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ce matin à 10h s'ouvre le procès des attentats de janvier 2015. Charlie Hebdo, Montrouge, l'hypercacher, 17 personnes avaient trouvé la mort.
14 accusés soupçonnés d'avoir apporté un soutien logistique aux terroristes. Face à eux, 200 parties civiles, dont Michel Catalano, un vrai miraculé.
C'est dans son imprimerie de Dammartin en Gueule que la cavale des frères Kouachi s'est terminée. Ce 2 septembre, il a commencé à l'appréhender il y a déjà des mois.
Ça commençait à me perturber dès le mois de janvier. Je me suis dit, oh là, cette année, ça va être une année difficile. Bon, ça restera une année difficile, pour plein de raisons, bien sûr, mais Le procès en fait partie. Alors, je ne sais pas du tout si je vais avoir des réponses à un certain nombre de questions que je me pose, si je vais savoir comment ils ont pu arriver là, comment ils ont été aidés pour en arriver là, comment ils ont pu avoir des armes. Je ne sais pas si j'aurai toutes les réponses. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est que l'émotion, ça va être grande. Ça va me replonger dedans. Ça va être une période très difficile. C'est comme si vous aviez une douleur et qu'on aura appuyé dessus. On sait que ça va être un moment difficile, mais ça fait partie des choses qu'il faut absolument pour pouvoir continuer à aller de l'avant et continuer le livre de sa vie. C'est-à-dire c'est une page supplémentaire qu'on tourne, mais c'est important. Voilà. Ça ne mettra pas fin à rien, mais en tout cas, ça sera une étape supplémentaire à franchir. C'est parce que justement on en a peur qu'il faut y être.
C'est parce qu'on en a peur qu'il faut y être. Ce témoignage extrêmement fort de Michel Catalano, vous le retrouvez dans le podcast Le Son de la Vie, podcast signé Sébastien Guyot.
Nous ne nous coucherons jamais, nous ne renoncerons jamais. Ce sont les mots du directeur de Charlie Hebdo, Rhys, dans l'édito qu'il signe aujourd'hui. L'hebdomadaire a choisi de publier à nouveau ce matin les caricatures de Mahomet.
Il s'agit de 12 dessins qui avaient valu au journal d'être pris pour cible. Depuis Beyrouth, au Liban, Emmanuel Macron défend la liberté de blasphémer.
Nous aurons tous une pensée pour les femmes et les hommes qui ont été lâchement abattus parce qu'ils dessinaient, parce qu'ils écrivaient, parce qu'ils corrigeaient, parce qu'ils étaient là pour livrer, pour aider, parce qu'ils étaient policiers. C'est ça ce qui s'est passé ce jour-là. Et ensuite, dans notre pays, depuis le début de la Troisième République, il y a aussi en France une liberté de blasphémer qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc, de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. On peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc.
Emmanuel Macron au micro de l'envoyé spécial d'Europe 1 au Liban, Adrien Beck.
Les locaux de Charlie Hebdo, ce ne sont plus évidemment les mêmes que ceux où le massacre s'est déroulé le 7 janvier 2015. Ils sont installés dans un autre quartier, une adresse gardée secrète.
Mais où les voisins se doutent bien qu'il s'agit d'un lieu ultra sensible, comme l'a constaté Nicolas Feldman.
Une longue rue bordée d'immeubles haussmanniens, des terrasses de cafés, une dizaine de commerces. Cela pourrait être n'importe où dans Paris. Mais s'approcher des nouveaux locaux de Charlie, c'est sentir des regards insistants, invisibles, se poser sur vous. Une fois devant le journal, des caméras surveillent une grande porte.
C'est très discret, quand on ne le sait pas, on ne remarque rien.
Et sans ce commerçant, difficile d'imaginer le dispositif caché derrière.
De temps en temps, quand on passe, on voit des gardes du corps qui sortent et qui bloquent un petit peu la circulation pour permettre à des voitures teintées de soit de sortir, soit de rentrer. Et on voit bien que c'est pour Charlie Hebdo. Il faut ce qu'il faut, hein. C'est tout à fait normal.
Dans le quartier, c'est un secret bien gardé, une confidence que l'on se passe entre riverains. Et ce n'est pas la nouvelle publication des caricatures qui viendra briser le silence.
Je pense qu'on pense tous pareil. Le faire au moment du procès, etc. C'est vrai qu'on peut avoir un taré qui revient demain et qui recommence quand même jadissement. C'est très courageux de leur part de le publier. Moi, je me sens pas spécifiquement en danger parce qu'ils sont à côté. C'est bien qu'ils aient survécu. Il faut qu'ils continuent d'exercer.
Ce matin encore, le numéro de Charlie Hebdo figurera en bonne place dans le kiosque du quartier. Avec ce titre en une, tout ça pour ça.
Et puis je vous le disais à 7h40, le film de ces trois jours qui ont changé la France, les archives Europe 1, 10 minutes pour se replonger, mais surtout pour comprendre les enjeux de ce procès, véritable document que vous découvrirez à 7h40 sur Europe 1 tout à l'heure.
On l'a dit, Emmanuel Macron était hier au Liban, il a obtenu un engagement pour qu'un gouvernement soit formé dans les 15 jours afin de relancer les réformes. Le Premier ministre libanais va d'ailleurs entamer les consultations dès aujourd'hui.
Emmanuel Macron qui sera ce matin en Irak, sa première visite dans le pays gardée secrète pour des raisons de sécurité.
Quant à Donald Trump, il était à Kenosha dans le Wisconsin où il a qualifié les manifestations violentes de terrorisme intérieur, mais sans faire référence au tir d'un policier qui ont grièvement blessé Jacob Blake.
7h06 sur Europe 1, un scandale écologique. Ce sont les mots de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Europe 1 vous révélait hier que Lafarge déversait des déchets de ciment en plein Paris, en plein dans la Seine, dans le quartier de Bercy.
Une enquête est désormais ouverte. Lafarge parle d'un incident temporaire lié à un acte de vandalisme. Mais ce matin, Justin Morin, vous pouvez nous dévoiler de nouvelles informations. Les rejets de ciment dans la Seine concernent aussi un autre site parisien, des pratiques qui ne dateraient pas d'hier.
Oui, ce qui met à mal la thèse d'un accident exceptionnel avancé par Lafarge. Cette fois, ça se passe au pied du pont Mirabeau, classé monument historique. Après nos révélations, des riverains m'ont contacté pour m'alerter. eux aussi ont constaté des faits graves. Ils ont même créé une association pour les dénoncer. Depuis son appartement, Maryse Fourcade, leur représentante, a une vue directe sur la centrale à béton.
J'ai vu plusieurs fois des camions Lafarge déverser en fait un liquide blanchâtre qui ressemblait à des eaux usées dans la Seine directement. Là aussi, on a pris des photos. C'est pas du tout un hasard, c'est pas du tout accidentel. Ça dure depuis de nombreuses années. Ça me révolte.
Les photos sont accablantes. La dernière date d'il y a 3 mois. Elles ont toutes été envoyées à la mairie. Emmanuel Grégoire, premier adjoint, affirme les avoir transmises à la justice.
Il ne s'agit pas de dire que le groupe Lafarge a fait exprès. Ça, ce sera le rôle de l'enquête. Simplement, nous avons quelques doutes sur l'explication qui est donnée d'actes malveillants. Et il faut qu'ils comprennent que le temps de l'impunité est terminé.
La mairie accuse aussi Aropa Port de Paris de ne pas avoir rempli son devoir de contrôle, ce que réclame depuis des années l'association de riverains.
Les informations de Justin Morin.
Les moins de 40 ans, de plus en plus absents au travail. Résultat d'une étude du cabinet Aiming qui porte sur 2019 et donc avant l'épidémie de Covid.
45 000 entreprises du secteur privé ont été sondées, près de 2 millions de salariés concernés. Une étude plutôt inquiétante, Olivier Samin, qui montre l'explosion de l'absentéisme des trentenaires.
Oui, très forte augmentation, plus 34% en l'espace de 2 ans. On parle là des arrêts de travail de longue durée, ceux de plus de 3 mois. Et très souvent, il s'agit d'arrêts pour situation de détresse psychologique, allant parfois jusqu'au burn-out. Xavier Bédos a travaillé sur l'analyse de ces chiffres. Cette fragilité grandissante des trentenaires ne le surprend pas.
Il y a d'abord un monde du travail qui demande énormément de flexibilité, d'adaptabilité, des changements importants et beaucoup d'inconnus aussi sur l'avenir. Et aussi une cellule familiale et sociale qui peut se distendre avec un soutien qui peut être moins important que sur les anciennes générations. Ce qui peut avoir une influence assez importante sur la santé des salariés et notamment l'état psychique des salariés.
Les entreprises ne peuvent pas ignorer cette tendance. Elles doivent mettre le paquet sur la prévention, sachant que plus un salarié est absent, plus il risque de se réabsenter. L'an dernier, près d'un salarié sur deux revenant d'un arrêt de plus de 3 mois s'est de nouveau arrêté en raison, dit l'étude du cabinet Heming, d'une mauvaise réintégration.
Olivier Samin.
Et puis pas de Mathieu ni d'Hélène. L'officiel des prénoms 2020 sort demain aux éditions First. 600 pages qui vous permettront peut-être de savoir si le prénom de votre enfant est original ou à la mode.
Ève, Roger, vous nous dévoilez les résultats en exclusivité ce matin avec en prime les nouvelles tendances pour l'an prochain.
Chez les filles, dans la catégorie poids lourd, Emma s'accroche à la première place, talonnée de près par ses outsiders, Jade et Alice. Côté garçon, Gabriel caracole toujours en tête devant Raphaël et Léo qui lui décrochent. En embuscade, Elena et Romy chez les filles, Victor chez les garçons sont sur le point d'entrer dans le top 20. Mais de façon plus discrète, plus subtile, des petits nouveaux commencent à apparaître. Les prénoms nature et écolo, ces tendances, explique Claire Tabarly-Perrin, co-autrice de l'officiel des prénoms.
Aurore, il y aurait Aube, ben, un prénom comme Nour, c'est la lumière. Chez les garçons, il y a des Zéphyrs, il y a Orion, il y a Sirius. Il y a par exemple Bosco, qui veut dire le bois. Il y a un Ilan, qui veut dire arbre.
Mais elle en est sûre, le Covid aussi aura forcément un impact. D'ailleurs, ça a déjà commencé dans certains pays asiatiques.
On a des parents qui avaient prénommé leurs enfants Corona, Covid, Lockdown. Ça a été fait essentiellement en Inde et aux Philippines. On a cette tendance à nommer un enfant pour qu'il n'ait pas les mauvais esprits qui tombent sur lui.
Et elle rappelle qu'au Japon, il y a aujourd'hui plus de 4000 tsunamis et en Afrique, des Ebola.
Ève Roger, ça fait peur.
Merci, oui. J'attends de rencontrer mon premier petit confinement. Lockdown, c'est ça, hein ?
Oui,
confinement.
Ou corona.
Confinement au tableau. C'est bizarre quand même. Hélène Zélani, merci beaucoup. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Il est 7h11.
Europe 1, Mathieu Béliard.
8h15, tout à l'heure, Sonia Mabrouk reçoit Gérard Larcher, président Les Républicains du Sénat. Les débats sur l'insécurité, mais aussi cette tectonique des plaques politiques avec Christian Estrosi à Nice qui appelle la droite à se ranger derrière Emmanuel Macron. Crise de nerfs en vue chez Les Républicains. L'édito politique de Nicolas Bétou à 7h50. Dans quelques secondes, le plan de relance, c'est demain, mais c'est déjà dans l'édito écho de Nicolas Barré. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h12 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le gouvernement détaillera son plan de relance de l'économie de 100 milliards d'euros demain. Et déjà, ce débat qui fait rage, sera-t-il suffisant ?
La question, évidemment, est provocante, parce que 100 milliards, c'est une somme gigantesque, presque un tiers du budget de l'État, trois fois le budget de la défense. Et pourtant, à l'occasion de cette crise du Covid, certaines personnalités, comme le patron de la banque d'affaires Lazare, comme Alain Minc, comme d'autres, plaident pour en faire beaucoup plus avec un argument. Il faut profiter de ce que les taux d'intérêt sont à zéro, voire négatifs, pour s'endetter massivement.
Et c'est une perspective qui effraie Bercy.
Bercy, la Banque de France, Bruxelles, enfin bref, tout le camp des orthodoxes qui disent « on est chez les fous, on a déjà une dette énorme, on ne va pas l'augmenter massivement ». Et puis face à eux, les partisans de cette stratégie de la dette disent « mais non, vous n'avez rien compris, on ne peut plus raisonner comme avant, on a changé de paradigme, il faut profiter de cette fenêtre historique puisque les taux sont négatifs ». Bon, avec une limite quand même, que cette dette serve à financer des dépenses d'investissement, qu'elle serve à moderniser l'économie, à faire franchir un cap dans des technologies clés, à muscler nos entreprises. Mais vous le voyez, il y a un vrai débat entre ceux qui pensent qu'il faut repenser ce sujet de la dette et qu'on peut dépenser beaucoup plus, et puis ceux qui s'inquiètent de cette fuite en avant en pointant la montagne de dette qu'on est en train de laisser à nos enfants.
D'accord, mais vous le disiez, Nicolas, 100 milliards d'euros, c'est déjà énorme. Est-ce qu'il serait vraiment justifié de faire plus ?
Alors, je pense qu'il faudra sans doute faire plus sur deux points. D'abord, la crise a dévasté la situation financière de beaucoup d'entreprises. Leur dette privée s'est envolée. Elles vont manquer de capitaux, notamment pour investir. L'enveloppe prévue pour recapitaliser les entreprises, 3 milliards d'euros, n'est sans doute pas à la hauteur du problème. On va vite s'en rendre compte. Et puis, deuxième point, compte tenu de tout ce qui nous remonte des chefs d'entreprise, à savoir qu'il y a une multitude de plans de réduction d'effectifs en préparation, il faudra certainement rallonger l'enveloppe prévue pour le chômage partiel. Les mois qui viennent vont être très difficiles sur le plan social.
Nicolas Barré, l'éclairage éco tous les matins. Merci Nicolas, il est 7h14. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Après deux jours de visite au Liban, Emmanuel Macron est attendu ce matin à Bagdad.
Oui, c'est toujours une surprise, une visite présidentielle en Irak. On ne les annonce pas à l'avance, question de sécurité. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts du Tigre depuis 2003, mais pour l'Elysée, ça reste une capitale en guerre. La rumeur que cette escale rapide allait être ajoutée au programme d'Emmanuel Macron a circulé hier à Beyrouth. Il y a toujours l'intendance qui fuit. L'Elysée refusait de confirmer, comme si le président descendait aux enfers. Ça reste une destination exotique pour un président. Jacques Chirac, Premier ministre, y avait signé des contrats avec Saddam Hussein à s'en donner des crampes au poignet, il n'y est jamais retourné. Nicolas Sarkozy a été le premier chef d'État en coup de vent. François Hollande a suivi, il a fait le tour des popotes au temps de la coalition anti-Daesh. Alors c'est le contraire du Liban où n'importe quel ministre débarque au sérail sans crier gare, prend des bains de foule et plante des cèdres comme s'il était dans le parc de Versailles. Beyrouth, c'est depuis un siècle et un jour le point d'ancrage de la diplomatie française au Moyen-Orient. Bagdad, c'est le coupe-gorge, la chasse gardée des anglo-saxons.
C'est la première visite d'Emmanuel Macron à Bagdad et il ne va y passer que quelques heures.
Oui, c'est juste un détour avant de rentrer à la maison, un détour en vitesse, en petit équipage, opération commando. Au Liban, il a pris des risques, notamment de décevoir une population qui n'en peut plus. À Bagdad, c'est un autre raid diplomatique. Ça montre que la France n'est pas cantonnée aux francophones, qu'elle parle avec tout le monde. Ça a toujours été l'orgueil de sa diplomatie. Les Irakiens se plaignent d'être piégés par le face-à-face irano-américain auquel ils voudraient échapper. Il ne faut pas forcément les croire. Ils se gardent de secouer ces tutelles écrasantes. Mais il y a la même impression étouffante qu'au Liban. Les deux pays sont les champs clos des affrontements régionaux. La guerre les a épuisés. L'après-guerre est pire encore. La classe politique est haïe par une population qui n'en peut plus de la corruption. Alors la France débarque. Emmanuel Macron vient lancer une initiative pour la souveraineté en lien avec l'ONU. On verra ce que c'est. Il n'est pas prévu qu'il porte des oranges aux djihadistes français que les Irakiens ont condamné à mort et qu'il nous garde au frais, en toute souveraineté évidemment.
Vincent Hervouet, merci Vincent. Le regard international de Vincent Hervouet à 7h15 tous les matins sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Votre nouveau rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern juste avant 7h30. Mais tout de suite, un sportif atteint du Covid est un malade comme les autres. Les athlètes testés positifs sont-ils stigmatisés ? L'édito sport de Virginie Fulpin dans une minute. Bon réveil.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Et à 7h19 sur Europe 1, nous retrouvons Virginie Fulpin pour l'édito sport. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Chaque jour ou presque, on apprend qu'un sportif est testé positif au Covid. Récemment, les deux joueurs du PSG, André Di Maria et Leandro Paredes. Et pour vous, Virginie. Ce qui pose problème, c'est qu'à chaque fois qu'un cas positif est annoncé, les sportifs sont placés sur le banc des accusés.
Ben on dirait que c'est forcément leur faute s'ils tombent malades. Je sens comme une suspicion quand il s'agit des sportifs. Ils n'ont pas dû avoir un comportement exemplaire, ils l'ont bien cherché. C'est ce que je lis entre les lignes, moi, et ça me dérange. Pourquoi est-ce qu'on les regarderait de travers? Je prends l'exemple de Benoît Paire à l'US Open. Les organisateurs du Grand Chelem de tennis l'ont exclu du tableau après son test positif. Ça, c'est logique, pas de problème. Mais en plus, ils ont communiqué sur le fait que le joueur ne devait pas assez porter son masque. En gros, c'est bien fait pour lui, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'ils sont tellement fiers de leur bulle soi-disant totalement hermétique dans laquelle ils ont placé les joueurs et les joueuses qu'ils ne veulent pas admettre la moindre faille. Donc si un joueur est positif, c'est sa responsabilité. Ça évite de se remettre en question et de faire peur aux participants qui restent. Mais c'est quand même pas si simple que ça, soyons sérieux. Il y a beaucoup de monde qui travaille à l'US Open, même si ça a été réduit avec la situation sanitaire. Et parmi ces gens qui côtoient les joueurs, il y en a beaucoup qui rentrent chez eux le soir et qui sont en contact avec leur famille, elles-mêmes en contact avec des collègues, des amis, des commerçants. Enfin bref, la bulle, elle n'existe pas vraiment hein, dans les faits. D'ailleurs, Benoît Paire parle de fake bulle. Et il a raison, c'est impossible de mettre totalement les joueurs sous cloche. Je sais bien que c'est du tennis, mais plutôt que de se renvoyer la balle, là, ce serait peut-être mieux d'admettre que le risque zéro n'existe pas, tout simplement.
Et le comportement des sportifs est encore plus scruté à la loupe que d'habitude. Hein.
Bah déjà, quand en normal, on ne leur passe pas grand-chose. Là, le moindre écart est vu comme une faute professionnelle. Bien sûr qu'il faut dénoncer les abus quand Novak Djokovic a organisé son Adria Tour en juin sans aucun geste barrière, aucune sécurité. C'est normal qu'on lui tombe dessus.
Et vous l'aviez fait de mémoire, Virginie.
Oui, je crois bien. Mais là, par exemple, avec les soupçons de cas positifs au Paris Saint-Germain dont vous parliez, tout le monde est déjà prêt à se déchaîner sur les joueurs et leurs vacances à Ibiza. Je ne dis pas qu'ils ont forcément été les plus prudents au monde, mais si on veut bien être honnête, qui n'a pas participé à une réunion de famille ou à des vacances entre amis cet été? Alors, qui jette la première pierre?
J'ai cru que vous me posiez la question à moi. Moi, je ne dirais rien de mon été.
Mais je trouve qu'avec ces accusations insidieuses, je sens revenir les clichés éculés sur les sportifs pas très malins et donc incapables de respecter un protocole. Et ça me semble un peu expéditif comme jugement.
C'est dit, c'est signé. Virginie Fulpin, l'édito sport, tous les matins sur Europe 1 à 7h20. Très bon réveil. Et ça y est, vous avez pris l'habitude. C'est un nouveau rendez-vous d'histoire que nous avons tous les matins. Il est l'heure de retrouver Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Souvent, cher Mathieu, j'essaye, autant que faire se peut, de trouver un lien entre les expressions du jour et l'actualité historique. Et vous allez voir, aujourd'hui, le lien est extrêmement fragile. C'est en 44 avant Jésus-Christ, début septembre, que sont nés les premiers discours qui ont fait la renommée de l'homme d'État romain Cicéron. Ces discours étaient appelés les Philippiques. Et ils marquent la violente opposition entre Marc-Antoine, qui brigue la succession de César, et Cicéron. Et bien justement, l'expression du jour est « rond de cuir ». Cicéron, rond de cuir. Bon, ok, le calembour est de piètre qualité, mais j'assume.
Cela dit, c'est bien d'assumer.
C'est pas mercredi.
C'est courageux de votre part. Oui.
Surtout, Mathieu, qu'à l'école, on disait Cicéron, c'est point carré. Oui. Histoire d'associer deux personnages historiques qui n'avaient aucun lien. Ah, on savait s'amuser à mon époque. Rond de cuir, aujourd'hui encore, eh bien, désigne de façon péjorative des employés de bureau souvent peu motivés, voire totalement inefficaces. À la fin du 19e siècle, certaines personnes, devant rester un certain temps sur des sièges peu confortables, avaient pris l'habitude de rajouter entre la chaise et leur postérieur un coussin de cuir plus ou moins bien rembourré, de forme circulaire, un rond de cuir. La démarche a inspiré Courteline, qui en 1893 publie le roman « Messieurs les ronds de cuir », décrivant avec délectation la médiocrité de certains fonctionnaires et leur faculté à faire appliquer des règlements aussi stupides que leurs coussins. D'une manière générale, un rond de cuir est donc une personne peu concernée par son ouvrage. Laissons le dernier mot à Feydeau, je cite « L'amant est l'artiste de l'amour ». Le mari n'en est que le rond de cuir.
C'est délicat, c'est délicat. Stéphane Bern, on va vous retrouver à 16h, historiquement vôtre. Qu'y a-t-il au programme aujourd'hui?
Eh bien, on réunit trois hommes qui ont une même passion, la collection. Vous collectionnez, vous?
J'ai eu collectionné un petit peu les timbres quand j'étais enfant.
Eh ben voilà. Le premier collectionne les timbres, l'autre les conquêtes et le troisième les disques vinyles. Avec Casanova, Philippe de la Renotière et le DJ Bob Sinclair. Je vous laisse remettre le sommaire dans le bon ordre. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Mathieu Noël de 16h à 18h tous les jours sur Europe 1.
À suivre sur Europe 1, il est 7h24. La météo avec Laurent Cabrol, un nouveau journal à 7h30 avec Sophie Echen. Très bon réveil à tous.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains.
Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Allez, soyons fous, portons l'optimisme à son apogée. Je vous annonce une journée d'été. Allez, carrément, journée d'été parce qu'il y a effectivement quelques nuances. Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace, Franche-Comté, Auvergne, Côte d'Azur, région Rhône-Alpes, nous aurons peut-être quelques averses, mais je dis bien peut-être. Partout ailleurs, c'est bien sûr une alternance nuages-éclaircies, mais le soleil l'emportera partout, et surtout sur le Poitou-Charentes, le sud-ouest, le Languedoc, le Roussillon et la région parisienne. Grand beau temps dans toutes ces contrées, ou presque, et des températures de 21 à 27 degrés, 21 à Sedan, à Lille et Brest, Caen, Colmar, La Rochelle, Nevers et Paris, 22-23, 24 à Rennes et Nantes, 25 à Lyon, 26 à Toulouse et Bordeaux, et 29 degrés à Carpentras. Voilà, c'est une belle journée.
C'est une belle journée de saison, si j'ose dire, mon oui. cher Laurent.
Ah, hein de saison, puis ça va durer. Dans l'ensemble, c'est plutôt la moitié nord et la moitié sud.
Mais on
la
prend.
Moitié sud au soleil et la moitié nord mitigée.
On prend la belle journée. Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Un mot pour vous dire quand même que dans la matinale, je vous ai donné les rendez-vous sérieux, les rendez-vous d'information. Mais sachez-le désormais, il y a double dose de Nicolas Canteloup le matin sur Europe 1. 8h45, la revue de presse avec Nicolas, avec Julie, vous le savez. Et à 7h55, le coach de l'invité politique qui est Gérard Larcher ce matin. À 8h15, il sera au micro de Sonia Mabrouk. Bon réveil. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est presque 7h30.
Les dessinateurs, en France, il y a un droit au blasphème, essayez de comprendre.
Le message de Plantu, le dessinateur du Monde, à ceux qui sont choqués par les caricatures de Mahomet, Charlie Hebdo les remet à la une aujourd'hui, au matin du procès des attentats de janvier 2015. 14 accusés dans le box, une centaine d'avocats et les audiences intégralement filmées pour l'histoire. Après le Liban, Emmanuel Macron est attendu ce matin à Bagdad, en Irak. Donald Trump, lui, s'est rendu à Kenosha, dans le Wisconsin, sur les lieux de l'affaire Jacob Blake, symbole d'une Amérique divisée. Reportage de notre envoyé spécial Xavier Yvon. Et puis au lendemain de la rentrée scolaire, premier bilan des profs à la fin de ce journal.
Après ce journal, nous vous proposons le film de ces trois jours qui ont changé la France. Les attentats de janvier 2015. 10 minutes pour comprendre ce que doit juger ce procès aujourd'hui. Un document exceptionnel à 7h40. À 7h50, après l'appel de Christian Estrosi à soutenir Emmanuel Macron, tempête chez les Républicains qui se cherchent un espace politique. L'édito de Nicolas Bétou. Et donc à 7h55, je vous l'ai dit, Nicolas Canteloup qui coach l'invité politique d'Europe Matin. Très bon réveil à tous, il est 7h30.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Du terrorisme intérieur. Les mots de Donald Trump pour qualifier les dégâts à Kenosha après les violentes manifestations qui ont secoué cette ville du Wisconsin. C'est là que Jacob Blake a été blessé par la police il y a une dizaine de jours.
Le président américain en visite donc à Kenosha n'a pas rencontré la famille du jeune afro-américain. Son déplacement a été accompagné d'affrontements entre pro et anti-Trump. À Kenosha, le reportage de notre envoyé spécial Xavier Yvon.
À deux pas d'un champ de voitures calcinées, ce sont deux Amériques qui accueillent le convoi de Donald Trump. Hurrah d'une foule à casquettes rouges contre huées de manifestants à t-shirt noir Black Lives Matter, c'est à celui qui criera le plus fort. 4 ans de plus, réclament les Trumpistes. Mettez-le dehors, scandent les antiracistes. Les visages se rapprochent, le ton monte et les insultes fusent. Ce sont les démocrates qui payent les émeutiers, sans porte-pola avec son t-shirt Trump. C'est du terrorisme intérieur, dit-elle, reprenant les mêmes termes que le président. Au contraire, c'est lui, Trump, qui incite à la violence, dénonce James, un père de famille noire. Il vient faire une opération de com' pour continuer à faire peur aux Américains, dit un autre manifestant. Pour le coup, Todd le Trumpiste est d'accord. Continuez comme ça, vous allez faire réélire Trump. Merci les gars, hurle-t-il aux manifestants. Cette anarchie, ces émeutes, explique-t-il, c'est très bon pour Donald Trump, qui est le président de la loi et de l'ordre. Chaque camp a su représenter la majorité des Américains. Rendez-vous aux urnes le 3 novembre pour savoir qui a raison. Kenosha, Xavier Yvon, Europe 1.
À la une de l'actualité aussi, c'est bien plus qu'un symbole, c'est un vrai choix éditorial. Alors que le procès des attentats de janvier 2015 s'ouvre aujourd'hui, Charlie Hebdo a choisi de republier ses caricatures de Mahomet.
De quoi relancer le débat autour de la liberté d'expression et celle surtout de blasphémer. Il y a 5 ans, les caricatures du prophète avaient valu à l'hebdomadaire d'être la cible des terroristes.
Ce matin s'ouvre donc le procès de cet attentat, mais aussi de la tuerie de l'hypercachère et de l'assassinat de la policière municipale de Montrouge. 17 morts, victimes
victimes des frères Kouachi, d'Amédi Coulibaly. Tous les trois sont morts aujourd'hui, vous le savez, mais leurs complices vont comparaître à partir d'aujourd'hui devant les assises de Paris.
Ils seront 14 dans le box des accusés, une centaine d'avocats et 200 parties civiles. Un procès qui s'annonce déjà hors norme et preuve de son caractère historique. Justin Morin, il sera intégralement filmé.
Il y a eu Nuremberg, il y a eu les procès du génocide rwandais, de Maurice Papon et de Pinochet. Il y aura désormais celui des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. En France, c'est la 13e fois qu'un procès est filmé, la première en matière de terrorisme. 5 caméras fixes ont été installées dans la salle d'audience. Elles seront supervisées depuis une régie extérieure, mais dans un cadre très strict. À tout moment, le président de l'audience pourra les interrompre s'il estime qu'elles portent atteinte au bon déroulement des débats ou aux droits de la défense. Pas de direct possible, comme ce fut le cas pour le premier procès français filmé, celui du criminel nazi Klaus Barbie, c'était en 1987. Ces images seront directement versées aux archives nationales et disponibles uniquement quand la justice se sera définitivement prononcée après d'éventuels appels. Le dispositif est très encadré, mais la Cour d'appel de Paris qui l'a autorisé le juge nécessaire parce que ces 7, 8 et 9 janvier nous ont profondément bouleversés, crie la Cour, et parce que ces trois jours ont eu un retentissement qui a largement dépassé nos frontières.
Justin Morin. Après le Liban, Emmanuel Macron est attendu à Bagdad aujourd'hui. Une visite express dans la capitale irakienne. Le président français veut lancer avec l'ONU une initiative sur la souveraineté du pays.
Et puis ça y est, évacuer le stress de la rentrée. Plus de 12 millions d'écoliers qui ont repris les cours hier. Leurs enseignants les attendaient avec impatience et appréhension.
Après quasiment 6 mois d'école à distance et avec de nouvelles règles sanitaires à appliquer, les profs s'interrogeaient dans quel état allaient-ils retrouver leurs élèves. Victor Delande a récolté leurs premières impressions.
Dans la salle des profs, Madame Lambert semble déjà fatiguée par la reprise. Quelques heures passées avec des collégiens lui ont suffi pour se faire une première impression.
Je les trouve très à l'aise pour des sixièmes. Ça veut dire qu'ils prennent la parole très allègrement, qu'ils se lèvent, qu'ils ont besoin de se remettre tout simplement dans le bain.
Même sensation pour sa collègue Sarah Astier, professeure de sport.
Ils sont un petit peu sortis du cadre scolaire et je pense qu'il va falloir peut-être un peu plus de temps que les autres sixièmes pour qu'ils intègrent toutes les nouvelles règles et qu'ils se remettent effectivement au travail.
Au lycée, Madame Marin s'a déjà repéré un manque de motivation chez les secondes.
Ils ont du mal à se mettre en route, ils ont du mal à se dire qu'ils vont reprendre une année normale, à travailler, à se remettre au travail.
Est-ce que les élèves se remettront vite au travail? Oui, ce doute existe bien dans la tête de tous les professeurs. Mathieu Seguin, proviseur adjoint, veut rapidement faire un état des lieux des lacunes des collégiens et lycéens.
On a quand même de toute façon nécessité de faire un point et une évaluation diagnostique de qui nous avons en face de nous et de leur disposition à travailler cette année.
Et il ajoute qu'il faudra quand même attendre plusieurs semaines avant de connaître précisément quel pourcentage d'élèves a décroché pendant la crise.
Un reportage dans un établissement parisien signé Victor Delande. Et puis Mathieu, cette somme astronomique, 157 millions d'euros, ça fait envie ?
Ça fait, oui, j'ai du mal à mesurer en fait.
Oui, c'est normal, mais c'est ce que vient d'empocher un Français heureux gagnant de l'Euro Million. C'est le 3e plus gros gain jamais remporté par un Français au jeu.
Bon, et il n'est pas dans l'équipe. Vous seriez venu si c'était vous, Sophie Echen, ce matin?
Je ne me
vous auriez mis
pas.
Le réveil à 1h du matin, vraiment. On va garder un peu de suspense. Sophie Echen, c'était le journal de 7h30. Merci beaucoup. Bravo à ce Français. Quel talent, trouver les bons numéros.
Quelle chance.
157 millions d'euros. Voilà, c'est dit. Il est 7h35 sur Europe 1. Un excellent réveil à toutes et à tous. Un nouveau journal tout à l'heure à 8h avec François Geffrier.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Gérard Larcher, président Les Républicains du Sénat, invité politique d'Europe Matin aujourd'hui. Mais tout de suite, exceptionnellement, pas d'invité. Mais nous vous proposons de vous replonger dans ces trois jours de janvier 2015 qui ont changé la France. Charlie, Montrouge, l'hypercacher, les attentats de janvier 2015. Les archives, le récit, documents audio exceptionnels. À suivre dans quelques secondes sur Europe 1. Bon réveil.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h38 sur Europe 1. L'ouverture du procès des attentats de janvier 2015. 17 morts. Charlie Hebdo, Montrouge, l'hypercacher. 14 personnes sont jugées pour avoir aidé les trois terroristes. La justice a un devoir de vérité et de réparation. C'est ce que nous disait l'ancien procureur de la République de Paris, François Molins, sur Europe 1 lundi matin. Prendre le temps aujourd'hui. Nous allons prendre le temps pour comprendre ce procès, ses enjeux. Et nous avons fait le choix de vous proposer le récit de ces trois jours qui ont changé notre pays grâce au travail de Guillaume Biais, de partager aussi ce souvenir douloureux avec vous. Nous sommes le 7 janvier 2015, en fin de matinée.
Et d'abord cette fusillade il y a quelques instants en plein Paris, c'est dans le 11e arrondissement.
Non, très
Des tirs, semble-t-il, à l'arme automatique sur un immeuble qui abrite notamment le siège de Charlie Hebdo. Un policier a été touché. Il pourrait y avoir d'autres victimes. Nous serons en direct avec des témoins.
Ils sont allés directement dans les locaux. Ils ont ouvert le feu. On a dû se réfugier sur les toits. J'en ai vu deux hommes cagoulés en noir. Ils sont rentrés, ils ont tiré. Et il y a des victimes. Voilà. Ça a été rapide et c'est un vrai carnage, quoi.
Un bain de sang dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo. Charb, Cabu, Volinsky, Tinius, Bernard Maris, Philippe Honoré, Elsa Kayat, Mustapha Ourad, Michel Renaud, Frédéric Boisseau et le policier Franck Brinsolaro. Au milieu des corps, des survivants, blessés pour certains, abasourdis, se souvient encore Ségolène Vincent, épargnée par un terroriste.
C'est un silence de mort, puisque les personnes sont mortes et celles qui ne le sont pas sont en train de faire semblant de l'être. Étonnant silence, presque un silence poisseux, alors peut-être que j'associe ça au sang, mais un silence d'avant les hommes ou d'après les hommes, quand il n'y aura plus rien ou avant, quand il n'y avait rien, le vrai rien.
Dehors, le quartier est sous le choc. Les assaillants poursuivent leur périple sanglant. Ils tirent sur une voiture de police avant de tuer un gardien de la paix, Ahmed Merabet, lâchement assassiné à bout portant, boulevard Richard Lenoir, sous les yeux d'un témoin.
Il était à terre, il a pointé son pistolet vers les terroristes, et ils ont continué à tirer, et là, il a été touché, et ils se sont rapprochés de lui, ils lui ont tiré une balle dans la tête, et du coup, là, il ne bougeait plus.
On a vengé le prophète, on a tué Charlie Hebdo, clament les terroristes. Les pompiers et policiers arrivent de partout. En direct sur Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini est le premier reporter sur place.
Écoutez, je viens à peine d'arriver, j'ai à quelques mètres de moi une personne qui est étendue sous une couverture isotherme avec plusieurs pompiers autour de lui.
Secouristes, enquêteurs, élus, ministres se précipitent jusqu'au chef de l'État, François Hollande.
Un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris.
L'émotion aussi et l'immense chagrin de Philippe Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo.
Je me sens seul, mes amis sont morts. C'était des gens très bons qui ont passé leur vie à essayer de distraire leurs semblables. Et ils ont été exterminés. C'est toute une façon de s'exprimer qui vient d'être effacée.
Alors que les Français, sidérés, mesurent peu à peu l'ampleur de la tuerie, les terroristes sont en fuite. Paris 19e, rue de Meaux. Ils abandonnent leur voiture et braquent cet homme pour lui voler sa Clio.
Il s'installe à l'avant et moi, à ce moment-là, j'ai le réflexe d'ouvrir la portière arrière et de dire « je récupère mon chien ».
Est-ce qu'ils sont très agressifs ?
Non, très très calmes, très déterminés, très posés, très professionnels, des commandos.
Dans la première voiture qu'ils laissent derrière eux, les assassins oublient une carte d'identité au nom de Saïd Kouachi. Son frère, shérif, a déjà été condamné dans une filière djihadiste.
Leurs noms et leurs photos ont été diffusés en fin de journée à tous les services de police et de gendarmerie de France. Il s'agit de deux frères de 32 et 34 ans, deux Français qui sont nés à Paris dans le 10e arrondissement, tout près des locaux de Charlie Hebdo.
Et pendant que les policiers interrogent les proches des frères Kouachi, partout dans les grandes villes, des dizaines de milliers de personnes se rassemblent spontanément.
Des manifestants qui ont d'abord pris place silencieusement sur cette place avant de se mettre à applaudir pendant de longues minutes, à crier « Charlie, Charlie, Charlie vivra !»
C'est le stylo contre le bazooka et c'est pas admissible.
Je suis attristée, je suis musulmane, mais ça veut pas dire pour autant qu'ils l'ont fait au nom de ma religion. Ce n'est pas ça l'islam.
Un slogan fédérateur fleurit alors. Je suis Charlie.
Trois mots en lettres blanches et grises sur fond noir. Et ce mot-clé traverse largement les frontières du net. I am Charlie, yo sol Charlie, ich bin Charlie ou encore yo sono Charlie.
Jeudi 8 janvier, au lendemain de la tuerie, le cauchemar continue. Nouvel attentat aux portes de Paris.
Édition spéciale sur Europe 1 ce matin, nous sommes tous des Charlie. Une fusillade, une nouvelle fusillade il y a quelques minutes au sud de Paris. Une policière municipale, nous disait à l'instant Alain Co, a été blessée.
Clarissa Jean-Philippe, 26 ans, touchée dans le dos par une balle de Kalachnikov, succombe à ses blessures. On pense évidemment au Kouachi, fausse piste. Quelques heures plus tard, la police identifie l'assassin, Amédi Koulibaly, complice des terroristes. Les frères Kouachi, eux, sont repérés loin de là, en Picardie.
Oui, ils auraient braqué ce matin une station-service à Villers-Cotterêts, à plusieurs dizaines de kilomètres de Paris, obligeant les clients à s'allonger sur le sol. Ils étaient, semble-t-il, lourdement armés. Kalachnikov peut-être lance-roquettes.
Hélicoptères, barrages filtrants, patrouilles, policiers et gendarmes ratissent les environs. Une traque suivie au plus près par l'envoyé spécial d'Europe 1, Xavier Yvon.
J'ai pu suivre une vingtaine de policiers d'élite
casqués qui ont ratissé une petite partie de l'après-midi, un minuscule village perdu au milieu de la forêt, sous l'œil incrédule de ses 300 habitants.
Ah, c'est la totale, ils vont me fouiller ma baraque et tout, hein, ils sont devant chez moi là. Et puis alors, nous on se balade au milieu d'eux, tu vois, et puis eux par contre ils ont le fusil qui est engagé. Hein.
Mais c'est possible de nous laisser travailler et de reculer là-bas maintenant, merci.
Mais les recherches ne donnent rien. C'est le lendemain matin que les Kouachi réapparaissent en Seine-et-Marne, à Dammartin-en-Goële, dans l'imprimerie de Michel Catalano.
C'est un face-à-face, voilà. Ils m'ont dit, est-ce que vous me reconnaissez ? J'ai dit oui, je sais qui vous êtes. Et là, ils m'ont demandé d'appeler la gendarmerie, ça m'a paru un peu curieux. Mais je me suis évidemment exécuté, puisqu'ils étaient en face de moi, avec Kalachnikov pointé sur moi. Et donc j'ai appelé la gendarmerie à ce moment-là.
Premier gendarme sur place, une simple patrouille de Dammartin. Saïd Kouachi sort, tire sur leur voiture, mais ils étaient déjà descendus. L'un d'eux riposte, et témoigne quelques jours après en exclusivité sur Europe 1.
Je me contrôle, je garde tout mon sang-froid, je fais feu et je le touche au niveau visiblement de la gorge. Quand je le touche, il s'effondre en fait dans l'entrée et il s'extrait à quatre pattes à l'intérieur.
Le terroriste se réfugie dans l'imprimerie avec son frère. Ils ne savent pas qu'un employé, Lilian, s'est caché au premier étage, recroquevillé sous un évier.
C'est très très confiné et voilà, on est en position fœtale et le moindre mouvement fait du bruit. À un moment donné, il y en a un qui est venu boire de l'eau juste au-dessus de ma tête. Il a ouvert le robinet, il a bu son coup d'eau et à ce moment-là, bon, si s'était essuyé les mains et qu'il avait pris la serviette qui était tendue sur la porte qui me cachait, ça aurait ouvert la porte et j'étais dedans.
Les heures passent, la situation semble figée. Quand vers 13h, stupeur. Nouvelle attaque à Paris, porte de Vincennes. Prise d'otage sanglante dans un hypercachère.
Un homme armé se trouve à l'intérieur à l'Inco. On a un premier bilan, il y aurait au moins 2 morts.
Le tireur de Montrouge, Amédi Koulibaly, celui qui a tué la policière municipale Clarissa Jean-Philippe, retient une 20aine d'otages, dont Sophie, arrivée juste après lui dans le magasin.
Koulibaly a posé une de ses armes automatiques et le jeune homme qui était en face de lui a pris le fusil d'assaut et a voulu lui tirer une balle. Et lui, il a été plus rapide, il lui a mis une balle et le pauvre jeune homme est tombé.
Au sous-sol, dans la chambre froide de l'hypercachère, sont réfugiés d'autres clients, dont un au téléphone avec son meilleur ami qui renseigne les policiers.
Ok, ils sont 6 avec un bébé. D'accord, un bébé d'un mois. Ils n'en peuvent plus, ils meurent de froid parce d'accord. qu'ils sont dans une chambre de froide. Est-ce que tu as réussi à couper le froid ? Ils ont réussi à couper le froid, mais il fait très froid.
6 plus un bébé dans la chambre froide.
Voilà. Monsieur, je m'en occupe. Monsieur, je vais vous demander...
C'est à Dammartin que tout bascule, quand les frères Kouachi sortent de l'imprimerie et ouvrent le feu. Le GIGN riposte.
13h56 sur Europe 1, nous apprenons qu'il y a des coups de feu en ce moment même à Dammartin, en Seine-et-Marne.
Oui, je suis à quelques mètres de ce qui se passe et effectivement, en face de moi, on voit des coups de feu, des étincelles.
Les frères Kouachi sont morts et après 8 heures d'angoisse, Lilian, l'employé de l'imprimerie, sort enfin de sa cachette.
On ressent les déflagrations parce que le meuble a bougé, les portes sont ouvertes, tout est tombé autour de moi. Et à la première détonation, je me suis dit enfin, ça y est.
15 minutes plus tard, la BRI et le RAID donnent l'assaut à l'hypercachère.
Tout ce qui se passe, une vue sur tout le carrefour et il y a à peine 3 minutes il y a eu plusieurs grosses détonations qui ont retenti sur ce carrefour et une charge a été
Koulibaly donnée. Se jette entre les deux colonnes d'assaut des policiers qui le tuent. Les otages sont libérés, les blessés évacués.
Il y a 2 blessés graves à terre.
Envoie-moi un véhicule, j'ai un fonctionnaire blessé.
Ok, très bien.
Deux ambulances, s'il vous plaît, 2 ambulances.
Dans les allées du magasin, 4 otages sont retrouvés morts. Philippe Braham, Johan Cohen, Yoav Attab et François-Michel Saada, les dernières victimes de ces 3 jours d'attentats qui ont marqué la France.
La France, marquée, qui s'est retrouvée 2 jours plus tard au centre du monde. Je suis Charlie, nous sommes tous Charlie, entendait-on, lisait-on, lors de ce qui est aujourd'hui encore le plus grand rassemblement jamais recensé en France. 4 millions d'entre vous, dans plus de 260 villes. La police applaudit comme jamais depuis la libération. 44 chefs d'État et de gouvernement autour de François Hollande, à Paris. L'histoire sous nos yeux, vous vous en souvenez. C'était la proposition d'Europe 1 pour mieux comprendre ce qui sera jugé dans quelques heures. Partagez le film de ces 3 jours, c'est en ligne déjà sur europe1.fr et c'est signé Guillaume Bié avec le travail de la documentation sonore Europe 1, Sylvaine Denis et Laetitia Casanova. Vous restez bien sur Europe 1. Comment se porte la droite française? Retour à la politique à présent. Gérard Larcher sera l'invité politique d'Europe 1 dans 20 minutes. À 7h55, ce nouveau rendez-vous hein, avant la revue de presse avec Nicolas Canteloup qui va coacher, conseiller l'invité. Mais la droite française, on en parle tout de suite. Christian Estrosi qui propose aux Républicains de soutenir Emmanuel Macron en 2022. Quel espace politique leur reste-t-il? L'édito de Nicolas Bétou, c'est dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou, tous les matins. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est une annonce qui a surpris tout son monde. Christian Estrosi, le maire de Nice, a proposé hier de passer un accord avec Macron en vue de l'élection de 2022.
Voilà, une jolie petite bombinette qui a parfaitement réussi à exaspérer la direction du parti Les Républicains, dont il est membre. Le parti dirigé par Christian Jacob réunit en effet ses universités d'été ce week-end en région parisienne, précisément pour commencer à se mettre d'accord sur le processus de désignation de son candidat à la prochaine élection présidentielle. Badaboum, l'un des leurs, et pas des moindres, leur explique que c'est perdu d'avance, qu'ils peuvent s'économiser les neurones et qu'il vaut mieux se rallier à leur adversaire du jour, Emmanuel Macron. On a connu plus chaleureux comme message d'encouragement.
Et selon vous, pourquoi est-ce que Christian Estrosi fait ça?
Plusieurs hypothèses. Ceux qui ne l'aiment pas soulignent que cet ancien champion de moto a toujours eu une trajectoire, disons, sinueuse et qu'il cherche un poste pour le prochain quinquennat. D'ailleurs, il le confie lui-même au Figaro. Son scénario permettrait à tous les ralliés, je cite, de participer à des responsabilités gouvernementales pour redresser la France. C'est clair, non?
Oui, assez, Nicolas, c'est très clair. Mais ceux qui l'aiment bien, ils décryptent comment cette idée?
Alors, ils admettent que son analyse de la droite, pour dévastatrice qu'elle soit, est assez exacte. À ce jour, les chances qu'a cette famille politique de gagner la prochaine élection présidentielle sont très, très minces. Et tout le problème est alors de savoir s'il faut anticiper cette défaite et renoncer. Mathématiquement, ça se tient. Pour le moment, le scénario le plus probable pour 2022 reste un affrontement de second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les Républicains n'auront, ou plutôt n'auraient donc, d'autre choix que de se rallier entre les deux tours. Bon, bah, le faire avant, c'est économiser un débat avec ceux qui pourraient voter Marine Le Pen, crise de nerfs assurée chez les Républicains, et puis c'est monnayer plus cher son soutien. Bon, bah, c'est comme dans le train ou l'avion, hein. Plus vous réservez tôt, meilleures sont les places.
Mais, parce que vous connaissez, il y a sûrement un mais.
Voilà, le train en question devient le train de la mort, je veux dire de la mort du parti. Dans le système politique de la Ve République, et plus encore depuis le quinquennat, tout procède du président de la République. Tout remonte à lui, tout se décide avec lui. Bon, mais pour un parti de gouvernement, renoncer à présenter un candidat à la présidentielle, c'est perdre son statut, c'est changer de catégorie et acter son déclin. En 2017, et pour la première fois de l'histoire de la Ve, la droite républicaine n'était pas au second tour de l'élection. Si elle n'était même pas au premier tour en 2022, ce serait l'acte de décès national de cette famille politique. Il ne lui resterait plus alors que le titre de premier parti de France au niveau local, un parti bien implanté, à Nice, par exemple.
À Nice, par exemple, la 5e ville de France. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins dans Europe Matin, juste avant 8h. Et juste avant ce nouveau rendez-vous dans Europe Matin cette année, on va retrouver, comme tous les jours, Nicolas Canteloup à 8h45, la revue de presse avec Julie. Mais aussi, juste avant 8h, Nicolas Canteloup va coacher l'invité de Sonia Mabrouk. À 8h15, Sonia interviewera tout à l'heure Gérard Larcher, président LR du Sénat.
Oui.
Avec qui sommes-nous?
Oui, bonjour à toutes et tous.
Ah,
oui,
je reconnais, Emmanuel Macron.
Oui, tout à fait. J'ai écouté l'édito de Nicolas Bétou. Peut-être toujours une place pour lui au gouvernement prochain. Bref, Mathieu, cher Mathieu, dites à Gérard Larcher de se méfier de Sonia Mabrouk. Franchement, parce que c'est la championne pour foutre la zizanie. Gérard, je sais qu'elle va te demander de dire du mal de Darmanin. C'est, à coup sûr, c'est comme hier avec Dupond-Moretti. Ah, mais écoutez, moi, dire du mal de Darmanin, mais ça, j'aime bien, oui. Bon, pardon, je ne me suis pas présenté. Gérard Larcher. Écoutez, Darmanin, on va être franc, il est petit, il est méchant, il a le bourrichon, il veut écraser tout le monde, et c'est un énervé de la braguette. Ah ben oui, il n'y a pas que du Sarko chez Darmanin. Il y a aussi un petit peu de DSK. Oui, non, ça Gérard, il faut pas le dire, ça Gérard.
Pardonnez-moi, bonjour, c'est Eric Ciotti. Au passage, moi je veux dire, et je peux dire concomitamment aussi, du mal de Christian Estrosi qui a dit qu'il fallait soutenir Emmanuel Macron. C'est une évidence maintenant, nous le savons, le Covid a atteint son cerveau. Il est tout fada, Non, franchement, monsieur Béliard, il n'y a que Nicolas Sarkozy pour sauver la droite. Sinon, on est foutus.
Eh bien, on va voir, monsieur Ciotti, signé Nicolas Canteloup. On va voir quelle image de la droite va donner Gérard Larcher à 8h15, tout à l'heure. Merci, Nicolas Canteloup. On vous retrouve à 8h45 pour la revue de presse avec Julie. Il est 7h56. Et Laurent Cabrol nous rejoint, c'est l'heure de la météo.
Oui, alors rapidement, aujourd'hui, eh bien, c'est globalement ensoleillé, excepté dans les régions de l'Est, le flanc Est hein, exactement, hein, où nous aurons peut-être quelques ondées. Mais enfin, dans l'ensemble, c'est une journée plutôt agréable et plutôt estivale. Demain, nous aurons une amélioration très très nette sur toutes les régions de la moitié sud, avec des températures qui commenceront à monter. Et près de la Manche, encore un temps maussade avec du vent et un petit peu de fraîcheur. Vendredi, dans le sud-ouest, il fera très chaud, de là de 30 degrés. Du soleil partout, sauf près de la Manche, encore une fois, donc c'est un vendredi, mais c'est du beau temps pratiquement partout. Samedi, beau temps, 25-30 degrés, et dimanche, des averses orageuses sur le massif central, les Pyrénées et les Alpes, mais dans l'ensemble, ce sera pas mal du tout. Bref, l'été continue.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez Le Monde changer. Il est 8h.
Ce ne sont pas des seconds couteaux. Chacun a participé à l'édifice criminel qui a abouti aux deux massacres que l'on connaît.
Un procès sans les tueurs de Paris et Montrouge. 5 ans après, leurs complices face à la justice. La justice d'un pays, la France, qui cherche encore à comprendre. C'est dur d'être aimé par des cons, disait Mahomet sous la plume de Cabu, assassiné le 7 janvier 2015. Charlie Hebdo republie aujourd'hui les caricatures qui avaient fait scandale. Elle continue de choquer beaucoup de musulmans. Dans ce journal, après le Liban, Emmanuel Macron s'occupe de l'Irak. Visite ce matin à Bagdad, qui n'était pas annoncé à son agenda. Les derniers arbitrages du plan de relance, un gâteau de 100 milliards d'euros à se partager. Et puis les enfants masqués, même à 5 ou 6 ans, certains parents préfèrent la protection maximale.
Juste après ce journal, Sonia Mabrouk reçoit le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher. Après 8h30, le journal du Tour de France. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed, notre planète avec Fanny Agostini, avant la revue de presse de Nicolas Canteloup. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1, il est 8h01.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Je suis Charlie, je suis policier, je suis juif. En janvier 2015, ces cris de ralliement avaient permis à des millions de Français descendus dans les rues de montrer que le pays resterait toujours fort et uni face au terrorisme. Les frères Kouachi et Amédi Coulibaly venaient de frapper dans la rédaction de Charlie Hebdo, à Montrouge et à l'hypercachère de la Porte de Vincennes. 3 terroristes morts lors des assauts des forces de l'ordre. Ce sont leurs complices que l'on juge à partir d'aujourd'hui et pour 2 mois et demi devant la cour d'assises spéciale.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
En direct du Palais de Justice de Paris, à 10h, tout à l'heure, ce sera le début d'un procès hors norme.
Oui, et déjà à 2 heures de l'ouverture, on mesure que tout est particulier. À commencer par la sécurité déployée autour du palais dès 7h ce matin avec des quarts de CRS et de gendarmes mobiles qui en font un bunker. Des détecteurs de métaux ont été mis en place et il faudra être partie civile, avocat ou journaliste accrédité tout à l'heure pour accéder au deuxième étage. Et évidemment, une sécurité policière renforcée a été prévue autour des membres de Charlie Hebdo.
Et dans 2 heures, Chloé, ils seront 11 dans le box.
Oui, ils seront 11 hommes physiquement présents dans le box car il manque 3 accusés qui sont en fuite, dont l'épouse religieuse d'Amédi Coulibaly, le terroriste de l'hypercachère. Les 11 qui seront, tous les 3 seront jugés en leur absence. Quant aux 11 hommes qui seront là, eh bien eux, ils sont soupçonnés d'avoir prêté aide et assistance aux terroristes. On leur reproche un soutien logistique comme par exemple l'achat de matériel et d'armes. C'est le cercle plus large des accusés. Pourtant, pour maître Laurence Sechmann, il n'est pas question d'entendre parler de second couteau.
Ce ne sont pas des seconds couteaux, ce n'est pas une pizza qu'on partage en matière de responsabilité criminelle. Chacun a participé à l'édifice criminel qui a abouti aux 2 massacres que l'on connaît.
Tout le travail de la cour d'assises sera de distinguer qui a fait quoi et à quel degré de connaissance, surtout du projet final terroriste, pour établir une graduation des responsabilités. La défense explique qu'elle attend une justice exemplaire et non pas des exemples. Les magistrats qui composent la cour ont 2 mois et demi devant eux.
Chloé Triomphe en direct du Palais de Justice de Paris, où vous allez nous faire vivre ce procès pendant les deux mois et demi qui viennent.
Le matin du 7 janvier 2015, les kiosques de toute la France mettaient en vente un Charlie Hebdo rebaptisé Charia Hebdo quelques heures avant l'attaque du journal. Neuf ans plus tôt, en 2006, l'hebdomadaire avait publié des caricatures de Mahomet qui avaient déjà fait scandale au Danemark, des dessins de nouveau à la une du journal satirique ce matin. Une façon, selon le directeur Riss, de lutter contre la haine qui poursuit, dit-il, sans bruit, sa croisade impitoyable.
Des caricatures qui heurtent encore aujourd'hui certains fidèles musulmans. Romain Oquet s'est rendu à la mosquée de Boulogne-Billancourt, près de Paris.
Une corbeille de dattes, des verres de thé, devant la mosquée les fidèles bavardent, mais il suffit de quelques mots, caricatures, Charlie Hebdo et les visages se ferment.
Ça reste quand même un sujet assez sensible. Ouais.
Faïd, la trentaine, s'écarte du groupe et nous explique, republier ses dessins, c'est de la provocation.
Vu que le procès va s'ouvrir, ils se sont dit c'est le moment de faire le buzz en fait. On sait que là, si on tape sur les musulmans, on sait qu'on va provoquer une réaction. Donc on va toucher un peu sur le prophète et c'est aussi de la promotion pour histoire de vendre un peu plus de papier.
Avec le risque de raviver l'amalgame entre islam et terrorisme, redoute Samir, un autre fidèle. 5 ans après les attentats, il veut faire une mise au point.
On ne cautionnera jamais ce genre d'acte, c'est pas possible. Une personne parle avec sa bouche ou avec sa plume, on ne réagit pas avec des coups ou avec des armes.
Mais Samir en est sûr, ces caricatures vont à nouveau diviser la communauté.
Ça va remettre de l'huile sur le feu, et on n'a pas besoin de ça, surtout à l'heure actuelle. Bien sûr, il y aura des gens qui vont mal réagir, qui vont commencer à dire des choses horribles. D'autres qui vont utiliser justement ces mauvaises réactions pour pouvoir instrumentaliser et diaboliser la chose. Ça nous dégoûte personnellement de voir ça.
L'homme baisse la tête, soupire. On va encore devoir prouver au monde entier que oui, nous sommes de bons musulmans.
Sur Europe 1, le recteur de la mosquée de Bordeaux, Tarek Oubrou, appelle à l'indifférence. Tout à l'heure, il était invité en direct à 6h40. Il y a en France une liberté de blasphémer, réaffirme de son côté Emmanuel Macron.
Le chef de l'État qui ne rentre pas directement du Liban, où vous avez suivi sa visite, Adrien Beck, il sera ce matin à Bagdad. Le déplacement n'a été annoncé qu'hier soir.
Oui, cette visite, l'Élysée a voulu la garder secrète jusqu'au dernier moment pour des questions de sécurité. Visite express, Emmanuel Macron ne restera que quelques heures à Bagdad, le temps de rencontrer le Premier ministre, de déjeuner avec des responsables irakiens. L'enjeu, c'est la souveraineté de ce pays au cœur du Moyen-Orient, où l'influence de l'Iran est très forte, mais où, en même temps, 5000 soldats et diplomates américains sont toujours déployés, sans compter les incursions régulières des forces turques en territoire irakien. Ces derniers mois, les tensions sont montées d'un cran. Emmanuel Macron veut donc, ce sont ses mots, aider le peuple et les dirigeants irakiens à prendre leur destin en main. L'intensification des crises en Irak fait aussi craindre un retour en force de l'organisation État islamique. Lutter plus efficacement contre ce groupe terroriste sera aussi au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et les dirigeants kurdes et irakiens.
Adrien Beck, du service politique d'Europe 1.
Au Mali, un civil a été tué et deux autres blessés par des militaires français de la force Barkhane hier lors d'un incident.
Un bus refusait de ralentir malgré des sommations, selon l'état-major français qui rappelle que la menace de véhicules suicides est élevée. En France, 100 milliards d'euros à distribuer. C'est le fameux plan de relance attendu tout l'été. Emmanuel Dutheil, l'arme de l'exécutif pour que la crise soit stoppée net.
Oui, hein, c'est un plan audacieux pour un ministre, un plan massif, ajoute-t-on dans l'entourage du Premier ministre. Tout le monde dans l'exécutif prépare les esprits. Il faut taper fort et vite. 100 milliards d'euros vont donc être débloqués, du jamais vu, dit-on en plus haut lieu. Où on ajoute en plus, il faut vraiment que tout cet argent soit dépensé. Il y a 3 objectifs prioritaires. Accélérer la transition écologique. Le gouvernement va amplifier et simplifier les aides à la rénovation énergétique. Un grand plan vélo est aussi prévu. Deuxièmement, lancer un plan de reconquête industrielle. Le but, trouver les secteurs porteurs de demain comme l'hydrogène, les médicaments innovants ou encore la recherche quantique. Et puis, troisième objectif, relancer la cohésion et aider tous ceux touchés par cette crise. L'exécutif là va par exemple se concentrer sur les jeunes qui peinent à trouver un travail. Des formations innovantes vont être proposées. L'objectif d'un tel plan, c'est de créer un choc de confiance pour nous faire consommer et pour donner envie aux entreprises d'investir. Si on rate cela, on aura tout perdu, concède-t-on dans l'exécutif. C'est pour cela que le gouvernement promet des dispositifs simples à utiliser.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
8h08, vous restez bien avec nous. Dans un instant, on vous emmène à l'opéra. L'Opéra de Paris qui aimerait bien de nouveau être enchanté.
Et puis le masque des 5 ans, certains parents préfèrent prendre les meilleures précautions.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Depuis hier, les collégiens et lycéens s'habituent au festival de haussements de sourcils et de grands gestes avec les mains que nous impose le masque pour se faire comprendre. La règle, c'est l'âge de 11 ans, mais on va l'entendre avec ce reportage de Caroline Baudry. Certaines familles préfèrent équiper des enfants bien plus jeunes.
Moi, je me dis que voilà, le week-end prochain, pour aller voir ses grands-parents parce que j'aurais pas pris de risque.
Protéger Mia, sa fille de 5 ans, c'est la voir sortir de l'école avec son petit masque à motif sur le nez. Une rentrée en CP dans la prudence, explique Amel, sa maman.
J'appréhendais un peu la chose. Pour Mia, qu'elle se dise, bah voilà, pourquoi eux, ils ne le portent pas et moi, je le porte. Il y a l'effet de masse, en fait. Donc, finalement, ça s'est bien passé. Ils sont deux dans sa classe à porter le masque.
C'est un peu plus chez les grands. Des parents d'élèves racontent que dans la classe de CM1, CM2 de cette école, près d'un tiers des enfants portent le masque. Parmi eux, la fille d'Isabelle qui applique une règle simple.
Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Moi, je suis toujours les recommandations du pédiatre de mes filles qu'il fallait porter le masque en intérieur, tout le monde. Oui, à l'école, enfin en intérieur, à partir du moment où on est en intérieur et que les fenêtres sont fermées, oui.
Si rien n'interdit les parents de protéger avec un masque leurs jeunes enfants, l'éducation nationale le rappelle, le port du masque n'est pas obligatoire à l'école primaire.
Et sur la scène d'un opéra, on imagine assez difficilement les cantatrices masquées. Oui. L'Opéra de Paris va tenter de se relancer. Son nouveau patron, Alexander Neff, vient d'arriver.
Oui, le prédécesseur n'est pas allé au bout de son mandat. Et l'année qui vient de s'écouler a ébranlé cette vénérable institution de 350 ans. Diane Chenouda.
250 représentations annulées depuis les grèves. Des pertes estimées à 50 millions d'euros pour 2020. Garnier et Bastille en travaux. Des musiciens et des danseurs donc à l'arrêt depuis au moins 6 mois. L'opéra est à genoux, avait lancé Stéphane Lissner, qui a jeté l'éponge. Son successeur, Alexander Neff, accepte donc de relever le défi. Les spectacles vont reprendre petit à petit. La troupe attend ça avec impatience, à l'image du danseur Mathieu Botto.
Déjà que la carrière d'un danseur, elle est très courte. On s'arrête à 42 ans. Donc là, de perdre pratiquement une année, c'est terrible. Donc, puis c'est notre passion, hein. Donc on vit pour ça. On a une faim de loup. C'est comme si on avait un buffet bien garni face à nous et qu'on n'ait pas le droit d'y toucher encore.
Deux cas de Covid ont été signalés chez les danseurs qui ont repris l'entraînement et sont testés chaque semaine. Mais si tout va bien, il y aura de la danse en petits groupes à partir du 5 octobre, de la musique fin septembre et de l'opéra La Traviata en novembre. Tous espèrent une renaissance grâce au nouveau directeur, à l'aide de l'État et à la fidélité du public.
On a du mal à imaginer la Traviata avec un masque, pour le coup.
La Traviata, dans le prénom, c'est Violetta. Ça n'est pas dans le top des prénoms donnés en France en 2020. Europe 1 vous révélait ce matin en exclusivité le palmarès de l'officiel des prénoms qui sera publié demain. Emma, Jade, Alice, Gabriel, Raphaël et Léo. Alors, les prénoms orientés nature sont en vogue. Aurore, Aube, Zéphyr, Orion, Sirius. À noter en
Sequoia.
Inde...
Sequoia. Non, je plaisante, pardon.
Faites ce que vous voulez. Hein. En Inde et aux Philippines, la naissance de bébés nommés Corona, non. Covid et confinement.
Non, ils n'ont pas fait ça.
C'est pas cool.
Confinement au tableau. Non, vraiment. Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h. Vous retrouvez l'officiel des prénoms. Information Europe 1 ce matin. Vous retrouvez tout ça sur europe1.fr. Il est 8h13.
Europe 1. Mathieu Béliard.
Et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La droite unie pour dénoncer la politique sécuritaire du gouvernement. Mais la droite désunie sur la stratégie en vue de 2022. L'appel de Christian Estrosi de faire d'Emmanuel Macron le candidat commun provoque un coup de tonnerre chez les LR et les foudres de Gérard Larcher. Il est notre invité, le président du Sénat.
A tout de suite, il est 8h14.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1. L'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher.
Bienvenue à vous et bonjour Gérard
bonjour.
Larcher. En ce jour d'ouverture du procès des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo a décidé de publier à nouveau les caricatures de Mahomet qui lui avaient valu d'être pris pour cible par les terroristes islamistes. Comment vous qualifiez cette décision?
C'est un acte de liberté. C'est un hommage aussi... aux journalistes, aux dessinateurs, sauvagement assassinés. C'est aussi une pensée pour les morts de l'hypercachère, pour cette policière municipale à Montrouge. Vous savez, c'est une journée que je n'oublierai jamais. M'étant rendu sur place, quelques minutes après l'arrivée du président Hollande, et je dois dire que, au fond, la liberté n'est jamais une provocation. Bien sûr, elle ne doit pas inciter à la haine, mais elle n'est jamais une provocation. Et de rappeler le principe de Briand sur la laïcité, la loi doit protéger la foi tant que la foi n'entend pas dicter la loi.
Vous avez raison de rappeler les principes, mais dans les faits, Gérard Larcher, le droit au blasphème existe sur le papier, mais dans les faits, blasphémer en France, critiquer l'islam entraîne insultes, menaces et souvent protection policière. C'est un droit en trompe-l'œil aujourd'hui ?
Non, ça n'est pas un droit en trompe-l'œil. Voilà pourquoi je rappelle ces principes de laïcité. Je crois que ce procès où nous n'aurons pas la totalité des criminels présents est un procès important. Mais je pense aux mots de l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, quand il dit « Au commencement, il y a toujours le verbe. Il faut que nous soyons très attentifs
à ce que Malka le verbe... » Et Richard ajoute, Gérard Larcher, que la situation est pire aujourd'hui qu'il y a 5 ans.
En
sur
tous les cas,
sur le plan de la liberté.
Je crois que nous avons reculé et qu'il faut cesser de reculer.
Qui est le « nous » ?
Le « nous », c'est collectif. Essayons pas de rendre responsables les uns ou les autres. Par contre, réaffirmer que la République est laïque, ça ne doit pas être que des mots, c'est dans les faits, c'est dans le quotidien. C'est dans le quotidien des vies de chacune des communes. C'est dans le quotidien des attitudes qu'on doit avoir. Voilà pourquoi cette publication de Charlie Hebdo est un acte de liberté que je soutiens.
L'actualité politique à présent, Gérard Larcher, dans les colonnes du Figaro, Christian Estrosi propose une alliance entre la droite et Emmanuel Macron à la présidentielle. Est-ce qu'il vous a mis d'abord dans la confidence ?
Pas du tout. Et je dois vous dire, je ne suis pas certain que ça soit la première préoccupation des Français en ces journées de rentrée scolaire, de pandémie. Et je peux vous dire, pour avoir été en Bretagne la semaine dernière, pour certains, de la crainte de licenciement massif. Mais je l'ai dit à la boule. Certains nous voudraient nous faire croire qu'Emmanuel Macron serait un président de droite pour une politique de droite. Eh bien, cette politique qui est conduite n'est pas la nôtre.
En quoi il a tort, Christian Estrosi, quand il suppose, il a supposé que le candidat Emmanuel Macron
cette
est de droite.
Cette politique n'est pas la nôtre au plan fiscal, au plan de la dépense publique, au sujet de la politique de la transition écologique que nous voulons apaiser et locale, au sujet de l'ordre républicain et de la question de l'immigration. Je pense qu'il y a un espace, c'est le sens de mon combat. On ne peut pas se réduire à un choix binaire, ignorer qu'Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Il y a un espace politique que la droite
c'est ce que
et
vous
le
voulez.
Centre...
Est-ce que ce n'est pas ce que vous voulez croire, Gérard Larcher ? Pour conserver, pardonnez-moi, un espace, vous dites qu'Emmanuel Macron n'est pas à droite, mais dans les faits, dans les discours, chez une partie de
les
votre
faits,
électorat,
c'est, la
c'est le cas ?
Les faits, c'est la politique. Est-ce que vous pensez qu'en matière régalienne, mais pas simplement en matière régalienne, nous sommes un des pays les plus fiscalisés d'Europe. Nous sommes un pays où la dépense publique va atteindre cette année, j'en veux bien considérer que c'est une année exceptionnelle, plus de 63%. Voilà la réalité de notre pays. Une autre politique me paraît nécessaire.
Est-ce que la réalité, ce n'est pas que Christian Estrosi appuie là où ça fait mal, Gérard Larcher ? Vous avez beaucoup de talent en droite, mais aucun ne s'impose pour concourir à la présidentielle.
Je pense que Christian Estrosi fait une erreur d'analyse. Et je lui rappellerai ce qu'on s'est dit au moment de la convention de la droite et du centre qui s'était tenue à Antibes et où il était présent. Il m'avait même accueilli. Je crois que cet espace, il est extrêmement important. Mais voilà pourquoi je pense, mais ça viendra, il faut d'abord l'emporter au sénatorial, au départemental, au régional. C'est mon engagement que nous trouvions une formule de dialogue entre les talents de la droite et du centre. Et une formule que j'ai appelée un peu notariée, qui aujourd'hui est reprise de départage.
Oui, mais avant, Emmanuel Macron à l'Élysée en 2022 et la droite au gouvernement ? On connaît déjà
tout
le
ça,
film, on le voit en ce moment, le film.
D'abord, l'expression et le choix des Français. Je veux que les Français aient le choix d'autre chose qu'une alternative binaire, soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen. Et voilà pourquoi je me bats pour cet espace politique et surtout pour la liberté de choix des Français.
Sinon, si la droite, Gérard Larcher, ne s'impose pas en 2022, qu'est-ce qu'elle risque ? L'effacement ?
Écoutez, on va d'abord faire pour qu'elle s'impose et qu'elle soit présente au deuxième tour.
Est-ce que François Baroin est une solution ?
François Baroin fait partie des talents qui sont dans la famille politique qui est la mienne. Personnellement, nous nous retrouvons en fin de semaine. J'étais chez Hervé Morin dimanche. Je serai à l'université
d'été
de l'UDI. Ah oui,
la liste est longue. Est-ce que vous arrivez à déchiffrer les intentions de François Baroin ?
Écoutez, c'est à lui de s'exprimer. Je ne suis pas un déchiffreur. Je ne suis pas un interprète de la pensée de François Baroin. Je lui fais confiance.
Vous faites confiance parce qu'une petite musique en ce moment se développe, laissant entendre qu'il pourrait ne pas y aller, car il n'en a pas envie, tout simplement.
J'ai entendu toutes les musiques, on vient d'entendre la Traviata, on verra.
Vous avez envie d'entendre une autre petite musique, je suppose.
J'ai envie d'entendre une symphonie à un moment, mais surtout que ça soit la symphonie de la confiance retrouvée, le vrai sujet dans notre pays. C'est la crise de défiance. Elle s'adresse à l'ensemble des responsables politiques. Elle s'adresse à la société tout entière. Les gens doutent. Vous savez, cette crise de défiance, elle se traduit par ces fractures dans le pays, entre monde urbain et monde rural.
Mais monsieur le président du Sénat, vous êtes dans le diagnostic.
Oui.
Quelle solution, la droite, que nous faisons,
c'est très simple. C'est que nous pensons que la verticalité venue d'en haut, souvenez-vous, il y a 3 ans, on ne parlait que de Jupiter. Mais moi, je vous dis que la verticalité doit venir d'en bas et que parmi cet en bas, il y a faire confiance aux collectivités territoriales, aux 550 000 élus qui sont les plus proches des citoyens.
Faire confiance dans un environnement, en tous les cas un climat social et surtout sécuritaire particulier, j'en viens à la polémique sur le mot ensauvagement. Hier, à ce micro, le garde des Sceaux a réfuté le mot, ajoutant que le terme d'ensauvagement développe le sentiment d'insécurité. Qu'est-ce que vous pensez de ce diagnostic ?
D'abord, le garde des Sceaux, je voudrais lui dire très directement que la sécurité et l'insécurité, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Nous sommes le 3e pays le plus mal classé des 27 de l'Union européenne en matière de vol. Le 2e pays le plus mal classé en matière d'agression. C'est le pays où il y a le plus, en chiffre absolu, d'homicides. C'est le pays où il y a eu en 2018 20 000 policiers et gendarmes blessés.
Et donc, il ignore tout
cela. C'est une réalité.
Est-ce qu'il ignore tout cela, le garde des Sceaux, selon vous ?
C'est une réalité d'insécurité. Et il faut donc que l'État réagisse et que le sentiment d'impunité ne soit pas aujourd'hui le sentiment le plus répandu. Nous attendons depuis 2 ans un livre blanc sur la sécurité qui doit être remis au Parlement. J'ai hier, dans un échange avec le Premier ministre, rappelé cet engagement qui avait été pris pour ce livre blanc. Alors sur les mots, moi je ne m'intéresse pas les mots, le mot banalisation de la violence.
Bon. Parce que votre parti, Gérard Larcher, est-ce qu'il ne va pas aussi dans une surenchère ? C'est ce que dénonce Éric Dupond-Moretti. Quand Xavier Bertrand dit un été orange mécanique,
écoutez,
quand
c'est
Valérie
Gérard
Pécresse
Larcher,
dénonce les barbares,
c'est Gérard
qu'est-ce que
Larcher
vous pensez ?
Qui vous parle.
Oui, mais il fait partie
doit
de
répondre
DLR.
À la réalité de l'insécurité, doit remettre en place une justice, créer ce qu'on appelle le continuum de sécurité, revoir sa doctrine de maintien de l'ordre. Moi, au-delà des mots, je sais que les Françaises et les Français attendent des actes.
Monsieur le Président du Sénat, est-ce que Emmanuel Macron, est-ce que le Président de la République a échoué à protéger les Français ?
En l'état actuel, il n'a pas réussi.
Il n'a pas réussi.
Il n'a pas réussi. La réalité, regardez ce qui s'est passé à Paris. Les images de Dijon, il y a peu de temps, les images de Grenoble. Puis je n'oublie pas que Bayonne, c'est pas une incivilité. Bayonne, c'est un crime. Un crime sur quelqu'un qui est un acteur du service public de transport. Ne l'oublions pas.
Oui, mais faisons attention. À Grenoble, justement, apparemment, les images des dealers seraient le fait d'un clip qui a été tourné. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention également aux mots utilisés
par
la droite ?
Je vous ai cité des chiffres. Les chiffres qui viennent de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale, ils sont terribles. Nous sommes malheureusement, entre guillemets, une lanterne rouge en matière de sécurité dans les pays de l'Union européenne. C'est un défi que nous devons relever. Ça, c'est un défi qui, au quotidien, empoisonne la vie des Français. N'oubliez pas les quartiers,
monsieur le Président du Sénat, sans jamais cacher cette réalité. Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, une course à l'échalote quand on cherche le mot le plus fort, le plus percutant, celui qui va marquer ?
C'est pas l'échalote qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait pas des Français complètement oubliés dans leur quartier et qu'on laisse à l'abandon et entre les mains de voyous, parce que c'est encore autorisé le mot voyous, de bandes qui leur imposent leur loi. Il n'y a qu'une loi pour moi. C'est la loi de la République.
Merci Gérard Larcher, merci d'avoir été notre invité ce matin. Je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h26. Vous êtes sur Europe 1 à suivre un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani et le journal du Tour de France. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Vous écoutez Europe 1, il est 8h30. Un nouveau point sur l'info avec Hélène Zellani.
Un procès pour l'histoire, procès filmé, retour sur les attentats de janvier 2015. À partir de ce matin, 10h, Charlie Hebdo, Montrouge, l'hypercachère. Ce procès s'ouvre ce matin et pour un peu plus de deux mois devant la Cour d'assises spéciale de Paris. 14 accusés sont soupçonnés de soutien aux auteurs des attaques. 144 témoins vont être entendus pour déterminer quel a été leur rôle. Ce matin, Charlie Hebdo publie à nouveau en une les caricatures de Mahomet avec ce titre « Tout ça pour ça », 12 dessins qui ont valu au magazine d'être la cible des terroristes. Depuis le Liban, Emmanuel Macron défend la liberté de blasphémer. Soutien aussi ce matin de l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, interrogé sur Europe 1. Il estime que les caricatures font partie de notre culture française. Le chef de l'État est attendu en Irak. Tout à l'heure, visite de quelques heures à Bagdad pour soutenir la souveraineté du pays. La violence contre les élus au menu de la réunion qui commence en ce moment à Matignon. Jean Castex reçoit les principales associations après les incidents de cet été. La Nouvelle-Calédonie prolonge ses restrictions aux frontières jusqu'en mars 2021. Tout est fait pour que le virus ne circule pas dans cet archipel du Pacifique Sud de 270 000 habitants. Pour l'instant, seulement 23 cas recensés et aucun local. Le groupe pharmaceutique Roche annonce un test rapide du Covid pour la fin du mois. Il donnera les résultats en 15 minutes. 40 millions de ces tests de dépistage seront fabriqués chaque mois, deux fois plus à la fin de l'année. Les nouvelles révélations d'Europe 1 ce matin sur les rejets polluants du cimentier Lafarge dans la Seine. En plus de celui de Bercy, un autre site parisien est concerné, le pont Mirabeau. Les riverains ont envoyé des photos accablantes à la mairie de Paris qui a déjà porté plainte contre Lafarge. Vous vous souvenez peut-être de cette image. En janvier à Toulouse, un policier avait fait un croche-pied à une manifestante pendant une manifestation contre la réforme des retraites. Il a finalement été condamné à 1500 euros d'amende avec sursis et 1600 euros de dommages et intérêts. À Venise, c'est l'ouverture aujourd'hui de la Mostra, le premier grand festival international de cinéma en temps de pandémie. Scanner thermique pour prendre la température, des masques obligatoires aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des salles. 18 films seront en lice pour le Lion d'Or qui sera décerné par le jury présidé par Cate Blanchett. Et puis le pactole pour un Français qui vient de gagner plus de 157 millions à l'euro-million. C'est le troisième plus gros gain de l'histoire de la Française des Jeux. On ne sait pas encore où le ticket a été validé. En tout cas, si c'est vous, vous avez deux mois pour vous faire connaître.
Merci Hélène Zellani. C'est pas vous ?
Je crois pas. Non, je joue pas au loto.
Je cherche dans l'équipe qui a gagné 157 millions. On nous posera la question à Jimmy Mohamed dans deux minutes. 8h32, merci Hélène. On part sur les routes du Tour de France.
Tout de suite, retrouvez le journal du Tour avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Le journal du Tour, c'est avec vous, Marguerite Lefebvre. Bonjour Marguerite.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On attendait une première explication entre les favoris hier. Eh bien, il y en a un qui a envoyé un signal à tous ses adversaires.
Oui, c'est le Slovène Primož Roglič. Impressionnante facilité hier, plus fort que tous les autres en haut de la montée finale vers Hormerlet. Alors certes, tous les favoris l'ont monté ensemble, ce dernier col. Il n'y a pas d'écart au classement général, mais celui qui a levé les bras sur la ligne, qui a marqué les esprits et qui prend de fait le contrôle de ce tour, c'est donc Primož Roglič, plus que jamais prétendant à la victoire finale. Le premier Français, c'est Guillaume Martin. Il termine troisième de l'étape après avoir tenté d'attaquer lui aussi. Écoutez le coureur de la Cofidis qui s'est exprimé hier soir, masque sur le visage. Évidemment.
J'aurais eu des regrets de ne pas tenter d'attaquer aux 500 mètres. Donc il fallait tenter, les jambes étaient bonnes et ça sourira peut-être dans les prochains jours. En ce moment, je crois que Primož Roglič est difficilement battable et de fait, il ne m'a pas du tout laissé de champ. Mais si ça s'était regardé un petit peu, ça aurait pu le faire. Et ça ne présage pas forcément de la suite, mais c'est quand même très encourageant.
Guillaume Martin qui est aujourd'hui cinquième du classement général, toujours dominé par un autre Français, Julien Alaphilippe.
Alaphilippe qui devrait, sauf surprise, garder son maillot une journée de plus.
Oui, puisqu'aujourd'hui le classement ne devrait pas beaucoup bouger. C'est une étape de plaine qui devrait en toute logique s'achever par un sprint massif à Privas en Ardèche. Sur ce tour, il n'y en a pas beaucoup des occasions pour les sprinteurs, alors il ne faut pas les rater. Le Français Brian Coquard le sait bien, lui qui a terminé 9e et 7e des deux premiers sprints de ce tour.
Sur un sprint comme ça, super rapide, il faut que je sois super bien, que tout se groupe super bien. Ça n'a pas été le cas pour le moment, mais bon, on baisse pas les bras. Et je pense qu'il peut y avoir plus d'ouverture, donc voilà, c'est intéressant. Maintenant, on n'est pas à la rue sur les deux premières journées, mais bon, on ne peut pas se contenter d'un top 10.
Voilà, Brian Coquard qui tentera donc de faire mieux. Il s'élancera avec le peloton du Tour de France à 13h10, départ de Gap pour rejoindre Privas, 183 km plus loin. Arrivée prévue aux alentours de 17h30.
Merci, c'était le journal du Tour avec Marguerite Lefebvre. Et à demain, cinquième étape à suivre comme tous les jours, vous le savez, en fil rouge sur Europe 1.
La passion du vélo à chaque étape, c'était le journal du Tour avec Total Direct Energy. Un maximum d'économies sur l'électricité et le gaz. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
8h35, le temps avec Laurent Cabrol.
Allez, la tendance de la semaine, un peu plus calmement que tout à l'heure. Aujourd'hui, globalement ensoleillé, une réserve, quelques ondées sur le flanc est, mais dans l'ensemble, ce ne sera pas trop mauvais. Il fera 23 degrés à Paris et ce sera une journée presque estivale. Jeudi et vendredi, les températures grimpent et le soleil s'impose sur les deux tiers de la France. Seules les côtes de la Manche sont à l'écart, avec nuages et quelques bruines, mais dans l'ensemble, ce sera beau sur la France. Samedi, il fera plutôt beau aussi, plutôt ensoleillé, 24-31 degrés. Température. Et puis dimanche, le soleil se cache, les températures baissent et les nuages seront majoritaires. Voilà.
Merci Laurent Cabrol.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un instant, on prend soin les uns des autres dans Europe Matin. Le Covid, le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter, mais ce n'est pas forcément l'indicateur le plus intéressant. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed, notre planète avec Fanny Agostini dans la foulée, et bien sûr Nicolas Canteloup avec Julie pour la revue de presque à 9h moins le quart. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h37 et c'est votre nouveau rendez-vous dans Europe Matin, juste après 8h30. Toutes les réponses à vos questions de santé avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Et ce matin avec vous Jimmy, on va revenir sur ces chiffres que nous avons tous les jours au sujet du Covid. Hier, 5000 nouveaux cas et nous avons eu même un pic à 7400 nouveaux cas vendredi dernier. Comment est-ce qu'on interprète ces chiffres ?
Alors tout d'abord, il ne faut surtout pas les comparer avec ceux qu'on a pu avoir au mois de mars. Je vous rappelle qu'en mars, nous ne testions uniquement que les cas graves et donc les 5000 nouveaux cas que nous pouvons avoir au 1er septembre n'ont strictement rien à voir avec les 5000 cas du 1er mars. D'ailleurs, souvenez-vous, on avait ce décompte macabre du directeur général de la santé pendant le confinement. Désormais, on a ces chiffres qui, soyons honnêtes, sont très difficiles à interpréter, voire peut-être même sans intérêt si on les prend de façon si brute. Alors la question finalement, ce n'est pas combien, c'est plutôt qui et où. On sait désormais que l'âge est un des principaux facteurs de risque de faire une forme grave de Covid et inversement, plus vous êtes jeune, plus vous avez des chances de faire une forme mineure, voire asymptomatique. Alors, comme Patrick Cohen, je vous ai apporté un graphique avec plein de couleurs, mais à la radio, ça marche moins
Patrick,
bien.
Je vais faire une photo pour Patrick, on va lui...
Ouais,
je vais lui montrer.
Mais à la radio, ça marche moins bien. Toujours est-il que sur cette courbe, on voit très clairement que ce sont les jeunes avec la tranche 15-44 qui sont touchés, avec une progression dite exponentielle. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave, sauf que on se rend compte que ces jeunes ne font pas partie d'une catégorie hermétique et que petit à petit, les autres personnes vont être touchées. Si vous regardez la courbe de Santé publique France, les 45-64 sont en train d'augmenter très progressivement à un rythme plutôt tranquille, mais qu'il convient de surveiller. Alors, de toute façon, il va falloir être prudent et patienter, ne pas crier victoire trop tôt.
Et vous dites, Jimmy, qu'il faut aussi regarder où se situent ces cas ?
Oui, il ne faut pas regarder l'épidémie sur un plan national, mais plutôt à l'échelon local. Souvenez-vous, pendant la première vague, le Grand Est et l'Île-de-France étaient les zones les plus touchées. Et là, l'épidémie semble un peu plus répartie sur le territoire. Pour ce qui est des joueurs de foot, effectivement, il y a eu énormément de positifs. Et au vu du nombre de personnes qu'on a dans un club de foot, c'est plutôt inquiétant. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que les joueurs sont testés très régulièrement et forcément, nous avons et nous aurons des cas. Et puis si on regarde de plus près, en dehors du Paris Saint-Germain, on pourrait presque suivre l'épidémie en France en regardant celle des joueurs. On a 8 cas à Marseille, 7 à Strasbourg, 9 à Nantes, enfin inversement, 4 à Lille, dans des zones où le virus circule activement. D'ailleurs, on peut imaginer que si l'épidémie est répartie sur le territoire, elle est peut-être un peu plus absorbable par les hôpitaux qu'en mars dernier. La meilleure façon de l'éviter, de toute façon, c'est de se protéger les uns les autres en portant un masque, en se lavant les mains et en restant à distance. N'oublions pas que la deuxième vague dépend de nos comportements.
Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, vous l'écoutez tous les jours de 15h à 16h avec Mélanie Gomez, c'est sans rendez-vous. J'ai essayé de faire l'effort de ne pas regarder les cartes que vous me montriez. On a tout compris. Merci Jimmy. 8h40. Notre planète, tous les matins 8h40 sur Europe 1 avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Et alors ce matin, on va quitter la Haute-Loire. Nos auditeurs vont comprendre qu'on va partir vers les pays du Nord dans un instant. Vous nous parlez d'une innovation incongrue pour que les habitants des villes abandonnent la voiture.
Oui, alors autant la mobilité à la campagne comme là où j'habite, c'est encore un sujet épineux avec très peu de solutions. Autant en ville, là où se concentrent 70% des émissions de gaz à effet de serre, c'est là où il y a une vraie marge de manœuvre. La vague verte au municipal a d'ailleurs bien affiché la volonté des villes de devenir plus propres et ça passe de façon incontournable par la démotorisation. C'est pourquoi les maires rusent d'inventivité et l'exemple dont je veux vous parler ce matin, il est finlandais. À l'inverse d'une écologie punitive, on est là dans une politique incitative incitative, une politique que je qualifierais de politique de la carotte.
Fanny, les Finlandais en sont friands.
Complètement, ils s'inscrivent massivement sur une application qui transforme, tenez-vous bien, le CO2 en places de cinéma, en tickets de bus ou encore en parts de cake. C'est la ville de Lahti, 120 000 habitants, qui a mis en place ce système appelé City Cape. Cape, qui veut dire plafond à ne pas dépasser. Le plafond, c'est 21 kg d'équivalent carbone par semaine et par personne. Le principe est simple, l'appli reconnaît en fonction de la vitesse de déplacement si l'utilisateur a pris un véhicule motorisé ou non. En gros, plus la personne se déplace à pied ou à vélo, plus celle-ci va scorer et gagner des lots en nature. Des lots utiles pour inciter encore plus à la mobilité douce, des lots de loisirs comme le cinéma ou encore le spa, et des lots comestibles pour le réconfort après l'effort. Un concept qui commence à susciter l'intérêt de grandes agglos au Canada et aux États-Unis notamment.
Des villes sans voiture, Fanny Agostini, ça existe déjà ?
Ça existe avec l'exemple par excellence en Espagne, la ville de Pontevedra, 83 000 habitants, avec un maire qui a fait de la lutte contre la pollution une affaire personnelle puisqu'il est aussi médecin généraliste de formation. Il s'est lancé dans un grand plan de réaménagement urbain depuis la fin des années 90 pour faire baisser le taux de pollution avec 8 000 places de parking gratuit aux abords de l'agglomération. Et mission accomplie, 65% de pollution en moins dans cette ville de Galice où depuis 15 ans tout le monde est content. Les habitants se déplacent à pied ou à vélo. Une ville qui a gagné en qualité de vie et en attractivité et fait figure de modèle que l'on doit s'efforcer à suivre si on a encore l'audace de croire à cet objectif de contenir le changement climatique.
Fanny Agostini, notre planète. Tous les matins, on a rendez-vous avec notre planète et avec vous, Fanny Agostini, en direct de sa ferme pédagogique en Haute-Loire, 8h43. Vous restez bien sur Europe 1 dans quelques toutes petites secondes. La revue de presse, Nicolas Canteloup et Julie s'installent. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 8h45 sur Europe 1. Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore en studio, Sonia Mabrouk et son invité.
Gérard Larcher, mon invité, vous êtes président du Sénat. Gérard Larcher, quid de votre famille politique ? Quid de la droite ? La droite va mal, la droite va très mal. On est inquiet, Gérard Larcher. Je ne dis pas que je suis de droite, mais je connais des gens de droite. Si la droite ne s'impose pas en 2022, que va-t-il se passer ? Que va-t-il nous arriver ? C'est une véritable inquiétude, Gérard Larcher. Répondez !
Oh non.
Sonia Mabrouk. Rassurez-vous, je ne veux pas d'un choix binaire en 2022. Je ne veux pas d'un choix entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
Oui, mais la droite, je vous pose la question de la droite. François Baroin, mais qu'est-ce qui branle François Baroin ?
Sonia Mabrouk, je connais bien le monde rural.
Et... mais j'en ai rien à branler de ton monde rural. Moi, c'est la droite qui m'intéresse. Je suis du 16e. Ok, qu'est-ce qui va arriver avec la droite ? D'ailleurs, est-ce qu'Emmanuel Macron a échoué à votre avis en termes d'insécurité ?
Sonia Mabrouk, je ne dirais pas qu'il a échoué, je dirais qu'il n'a pas réussi. Voilà, je ne me mouille pas ce matin, vous l'avez remarqué, je ne suis pas venu avec mon slip de bain. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous parlez en termes, qu'est-ce que vous dites au sujet de l'insécurité avec Bayonne ?
Écoutez, je veux qu'on parle de Bayonne autrement. Bayonne, je veux qu'on parle aussi des trésors de Bayonne. Il n'y a pas que la sécurité. Le jambon de Bayonne, le jambon cuit, le jambon cru, le jambon fumé, le jambon... tous les jambons, vous voyez.
Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de course à l'échalote ?
Non, moi, je ne vous parle pas de l'échalote. Et puis arrêtez de me parler de bouffe, ok hein ? Je veux garder, regardez-moi dans les yeux, je veux garder mon summer body avec ce ton allé, bien rose, mon bronzage rosé. C'est un inédit.
À vous, Julie !
Ah bah oui, il était temps. Allez Mathieu, vous voulez bien prendre la parole ? On vous écoute avec plaisir.
Bonjour Julie. Bonjour ces auditeurs, bienvenue sur Europe 1. C'est Mathieu Bouclard, l'info du jour. C'est le courage, disons-le, le courage, car toutes les rédactions ne sont pas courageuses, mais c'est le courage, là, il faut le signaler, de la rédaction de Charlie Hebdo, qui republie les caricatures de Mahomet en ce jour d'ouverture du procès des attentats de 2015. Bon, les amis de Charlie, c'est le plus bel hommage, mais pensez quand même, les gars de Charlie, à garder vos masques anti-Covid. Hein, comme ça, personne ne saura que vous bossez pour Charlie. On ne vous reconnaîtra pas. Et en plus, accessoirement, vous ne choperez pas le Covid.
Et oui, accessoirement.
Et oui, Julie, les chers amis de la rédaction, les temps changent. Hein, des gens qui ne supportent pas la critique, qui n'ont pas d'humour, pas de recul. Et une fois aveugles en leur prophète, en 2015, vous vous souvenez, on appelait ça des islamistes radicaux. Et en 2020, on appelle ça des fans de Didier Raoult. Ils sont quand même un chouille. Vous en conviendrez, ils sont quand même un chouille moins dangereux. Voilà. Et puis ce matin, c'est le procès, il faut le signaler, le procès sera entièrement filmé pour l'histoire. On ne sait pas encore. On a parlé avec Virginie Fulpin. On ne sait pas encore qui de Beansport, de SFR Sport ou de Téléfoot aura les droits de diffusion à faire suivre avec Virginie Fulpin.
Eh ben, on suivra ça alors, Mathieu Béliard. Première tension au sein du nouveau gouvernement de Jean Castex. Éric Dupond-Moretti a réfuté le terme d'ensauvagement de la société utilisé par son collègue Gérald Darmanin. Et ça s'est passé sur notre antenne avec vous, Sonia Mabrouk.
C'est chez moi que ça s'est passé, chez Sonia. Et oui, c'est chez moi. Je peux vous dire que j'ai mis un beau bordel dans le gouvernement dès le 1er septembre. Et je ne suis pas peu fière, ma chère Julie. Non, pas peu fière.
Ouais, bonjour. C'est Jean-Pierre Casbah.
C'est Jean-Pierre, mais oui.
Eh ouais, c'est ma protégée, ma soso, ma gnagna, ma Sonia. C'est l'école Jean-Pierre Elkabbach. Une question, fallait poser la bonne question. La question. Et là, on fout la merde au Conseil des ministres dès le premier jour de la rentrée. Bravo, ma soso, ma gnagna, ma Sonia.
C'est réussi, oui. Merci. Alors, Jean Castex a tenté d'éteindre l'incendie en réconciliant Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Très tôt ce matin, on a un document sonore. Écoutez ça.
Bien. Bonjour, merci à tous les deux, cher Éric Dupond-Moretti, monsieur le ministre. Asseyez-vous, cher Gérald Darmanin. Si, serrez-vous la main tout de même. Allez, asseyez-vous. Merci d'avoir chacun, respectivement, répondu à mon invitation. Je vais vous demander, cher Éric, s'il vous plaît, Éric, de ne pas fumer le cigare dans la pièce, comme il n'est que 8h30 du matin, vous en conviendrez.
Monsieur le Premier ministre, je fume pour me détendre simplement, parce que j'ai vite fait d'être énervé. Donc, si vous permettez, je fais ce que je veux, d'accord ?
Bien, écoutez, j'entends cet argument, il a du sens. Bien, écoutez, d'accord. Alors, voilà, juste je vous donnerai, cher Éric, de ne pas me cracher votre fumée au visage. Voilà. Voilà. Ce n'est pas très important. Alors, venons-en au sujet qui nous intéresse. Donc, la rentrée se passe, ma foi, bien.
Hein, nous en sommes d'accord. Il y a tic-tac derrière.
Les Français sont contents. Ils suivent les consignes que j'ai données. Et j'en suis satisfait. Papi et mamie ne vont pas chercher les enfants à l'école. C'est déjà une belle avancée. Tout va bien. Par contre, je voudrais vous dire, cher Gérald, cher Éric, vous avez fait tous deux une petite bêtise. Hein, vous, si, vous êtes chamaillés dans les médias. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Je vais devoir, pardonnez-moi, mais vous houspillez comme des petits coquinous. Alors.
Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que tu vas faire, Hugolin,
Hugolin, il a
plus. Tu vas nous envoyer au piqué, c'est ça? Non, mais regarde-toi, franchement. Regarde ta cravate, ton nœud de cravate. Commence par arrêter de repasser tes nœuds de cravate. Ils sont tout plats, espèce de pecnose.
Oula.
Alors, je sens de la taquinerie et de l'humour dans votre propos, cher Éric. Je vous rappellerai tout de même que vous parlez au Premier ministre de notre beau pays, tout de même.
Bon, les minutes, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que je peux retourner bosser, hein? Parce qu'avec l'ensauvagement, hein, avec les sauvages, la banlieue, je vous le rappelle, est à feu et à sang. Je dois, et je me suis engagé à la passer au jet d'eau. Oui, bah écoutez, pardonnez-moi, mais je fais tout comme Sarkozy, mon idole, mais en moins bien.
Ça y est, recommence le nain priapique.
Oh là là, mais vous n'êtes pas bien.
Tu ne me parles pas comme ça, Miloute.
Oui, mais écoute, sors, si t'es un homme, sors. Je vais t'écraser mon cigare dans la tronche.
Bon, eh bien, écoutez, voilà. Une bonne chose de faite. Je crois avoir rétabli le dialogue entre vous. Lâchez-vous, voilà. Hein. Le dialogue est rétabli. C'est un contact, ma foi, positif entre vous deux.
C'est ça. Allez, félicitations. Bravo, c'est réussi. Le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère s'ouvre donc aujourd'hui. Il fait le tour des médias pour en parler. On reçoit le président de l'époque, monsieur François Hollande. Bonjour.
Oui, bonjour, je suis Charlie. Enfin, je suis François, bien sûr, mais je suis aussi Charlie.
Oui, ben on a compris.
C'est pas encore sur mon passeport, mais
non, c'est bon.
Je suis François Charlie.
Bon, oui, on a compris, c'est bon.
Oui, d'ailleurs, heureusement que ce n'est pas arrivé, je tiens à le noter, sous le quinquennat, enfin le septennat à l'époque de Gérald de Gaulle, parce que si le grand Charles avait dit « Bonjour, je suis Charlie », ça aurait créé une forme de familiarité peu habituelle et un peu, peut-être, oui, disons-le, dérangeante.
Disons-le.
Bah tiens, d'ailleurs, vous êtes toujours Charlie, alors que le journal vient de publier les caricatures de Mahomet, hein ? Vous êtes toujours Charlie.
Alors, je suis Charlie, ça c'est une certitude, mais avant tout, je suis lâche. Donc, si vous permettez, je ne vais pas me positionner sur cette question
D'accord, voilà. Ok. François Hollande, tout le monde s'accorde à dire que pendant les attentats, vous avez été irréprochable.
C'est vrai, je suis d'accord avec ce regard et avec moi-même. J'ai été ce qu'on appelle un grand président. Je me souviens très bien, je vais vous narrer ce moment, je me souviens très bien de cette journée tragique. J'étais dans mon bureau, je regardais Top Chef, je travaillais sur un dossier important quand j'ai reçu un appel urgent. Vous savez, la petite ligne rouge et le bouton qui clignote.
Oui,
qui me disait,
oui.
Je prends la ligne dans l'immédiateté parce que je suis un homme réactif. Et on me dit, un homme est en train de prendre un otage, un hypercachère. Il a une mitraillette et on entend des rafales de tir. Quelle fut ma première réaction? Ma première réaction était bien sûr de demander... Est-ce que des saucissons ont été touchés?
Oh non, arrêtez.
On m'a répondu probablement. Alors là, quand j'ai compris qu'il y avait urgence, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dit, il faut intervenir.
Eh ben dites donc, c'est passionnant comme anecdote, ça.
Mais non, mais vous souriez. J'entends quelques sourires, quelques rires autour de vous. Mais heureusement que vous aviez moi comme président.
Oui.
Moi qui ai eu la présence d'esprit de dire, il faut intervenir. Et ce, dans l'immédiateté. Imaginez que si Macron avait été président à l'époque, peut-être il aurait dit « Laissez ce Koulibaly tuer tout le monde », peut-être il aurait dit cette phrase-là. Mais moi, non, j'ai fait l'opposé.
Eh ben bravo.
J'ai dit « Il faut intervenir ».
Bravo, c'est magnifique, François.
Et après, quand il a été arrêté et que tout était bien revenu au calme et l'endroit sécurisé, eh bien, courageusement, je me suis dit « Tant pis pour la fin de Top Chef ». Tant pis pour la fin de ton dossier, François, tu dois te rendre sur place, sur le terrain, comme un reporter de guerre. Et je me suis rendu sur place et j'ai prononcé cette phrase historique. Et j'ai dit, dis donc, quel bordel! Voilà, mon récit de cette période sombre de notre histoire.
Eh bien, merci, monsieur le président.
Ce témoignage précieux. Merci, ouais. Nicolas Cordeloup, et merci, bravo, Julie. La revue de presse que tous les matins saluons les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Vous retrouvez la revue de presse sur Europe 1.fr. 8h57, il est là. Philippe Vandel, Culture Média, c'est la matinée qui continue.
Oui, bonjour Mathieu, vous l'avez vu dans les couloirs, dans les rues, des entreprises, on est tous masqués. Reste une question, est-ce qu'il faudra porter le masque sur les plateaux télé, dans les studios avec nos invités ou alors sur la scène au théâtre? Réponse avec un pro du spectacle et un médecin. Vous allez voir, ils ne sont pas d'accord. Une nouveauté sur YouTube, la plateforme ouvre ses salles de classe virtuelles pour la rentrée. Après l'énorme succès, ça se compte en dizaines de millions, centaines de millions de vidéos d'enseignement vues pendant le confinement. Il y aura la patronne de YouTube France, Justine Rist, et Julien Tartaglia, qui créer la chaîne Les Bons Profs avec nous. Et puis le grand vainqueur du confinement à la télé, c'était Louis de Funès, rétrospective à la Cinémathèque, ça vous fait marrer. Film de Gérard Houry, également rétrospective à la Cinémathèque, et on sera avec sa fille Danielle Thompson, scénariste de La Grande Vadrouille, Cornio, La Folie des Grandeurs, encore Rabbi Jacob, rien que ça, dans ce studio avec ou sans masque, on verra.
Philippe Vandel, Culture Média de 9h à 11h sur Europe 1. A tout de suite, Philippe. À partir de 5h demain matin, vous serez réveillé par Sébastien Krebs et toute son équipe. Pour ma part, je serai là demain en direct. Je vous souhaite une belle journée. Demain en direct, d'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.